Le grand Manitou a parlé. Il n'y aura pas de Tenet cet été. Mais c'est pas grave, il reste plein de vues, anyways. Bienvenue au Voyeur de Vues. Je m'appelle Yannick Belzile.
Je m'appelle Alex Rose. Et je m'appelle Eric Kaboulian.
Eric Kaboulian, oui, regarde, je pense que c'est temps quand Alex, toi tu m'as dit on fait pas ça. Mais moi je dis on le fait. Je plante un drapeau de rette là. Voyeur de Vues, le meilleur podcast de cinéma de la métropole.
Absolument.
Puis parce que là, on a un invité de marque maintenant.
C'est vrai que maintenant on a des invités, puis il n'y a pas d'autres podcasts de cinéma qui ont des invités.
Non.
On a inventé ça, nous autres.
C'est ça l'affaire.
Ouais. Fait que maintenant, on peut clamer ça au
départ.
Exact.
Oui. Alors, Eric Kaboulian, les gens qui sont passionnés par le cinéma connaissent déjà ton nom, mais s'ils savent, ceux qui ne savent pas, par exemple, tu as travaillé sur plein de films, dont récemment Les Barbares de Malbaie.
Absolument.
Qu'on a vu, on a beaucoup aimé. L'affaire plus grand public, c'est Menteur, qui était l'été dernier, n'est-ce pas?
Oui, ouais, le dernier été, là, quand il y avait encore des gros films de box-office.
Ouais, oui, cinéma, oui. Toi, tu étais comme dans la dernière vague de blockbusters québécois. Oui. T'es un de ces derniers qui a raidé cet étalon-là qui était le blockbuster qui était
quoi. Tout un temps où on sortait des films l'été, puis ça marchait. Mais absolument, je navigue entre les deux. Succès populaire et films que personne ne voit. Fait que c'est
ça. Écoute, nous autres, on l'a vu. Même que quand j'étais voir les Barbares de la Malbaie au Beaubien, ils ont passé au début... un genre de court-métrage qui se passait un peu dans le bois, puis qu'on voyait des animaux se faire comme couper pour manger. Puis là, j'étais comme... Hein? Ah, c'était une affaire genre de bouffe locale, comme « Hey, on prend des orignaux pour les fêtes. » J'étais comme « Ah, les Barbares de Malbaie, ça commence même. » Je veux dire, j'assume que c'est plus... que c'est rural, mais je voyais pas le pont avec le hockey, puis...
Ça s'en vient. Là. On dépasse une coupe de boc, puis après ça, on jase de hockey.
Je pensais qu'il va peut-être avoir un genre de cote de os à satellite comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais
il lance une peau de bison dans les airs, puis ça revient un chandail de hockey qui se met sur le dos, mettons.
Oh, ouais, exactement. Je pensais que c'est ça qui allait arriver. Puis là, finalement, quelqu'un est juste sorti comme « Oups, on a passé... c'est le mauvais film, on va vous commencer les Barbares de Malbaie. »
En même temps, au Beaubien, genre, ils mettent tellement genre des pubs weird, genre, avant les films que ça aurait pu genre être. On a un court-métrage qui a gagné, il était à l'affaire, le v'là en premier, avant votre film.
Écoute, c'était un bon petit teaser, pareil, mais regarde, là, on va, avant de passer au film, on va faire ce qu'on fait à chaque semaine, c'est parler de la sortie ou la non-sortie de Tenet.
Oui, c'est ça.
Apparemment que Tenet ne va pas sortir cet été, fait que je pense qu'on peut, c'est triste, c'est quelque chose que je pensais jamais dire de ma vie, mais il n'y aura pas vraiment de saison de cinéma estivale cette année. Puis
ça
n'a
pas
la
partie pour la gloire.
C'est officiel et c'est, ma foi, c'est vraiment triste.
Ben, ça va s'arrêter à suspens numéro 1. C'est ici, du moins.
Ben là, il y a Random Acts of Violence de Jay Baruchel qui sort à la fin du mois. Moi, je l'ai vu déjà, mais je ne peux pas en parler au podcast.
Puis Flashwood ici aussi, de Jean-Carl.
Ça va être ça, notre... Fait que tu sais, il va y avoir des choses. Mais Flashwood était super de sortir...
Oui, c'est ça, absolument. C'est ça.
Fait que, tu sais, c'est juste des choses qui ont été tassées, mais il n'y a rien qui sort même au moment où est-ce qu'on avait dit que ça allait sortir.
Non, puis je pense que c'est démoralisant parce qu'il y avait quand même quelque chose de, tu sais, Tenet, tout le monde l'attendait un peu pour ça. Genre, est-ce que ça va mal dans l'industrie, puis Chris, mais au moins, tu as ce film-là que tu es comme. Je pense que peu importe ton opinion par rapport à Christopher Nolan, puis par rapport au film blockbuster et tout ça, tu avais quand même une espèce de ah, ben, il va raviver une flamme, il va nous ramener un certain espoir de ce genre de cinéma là qui ben du cinéma qui peut juste comme exister en salle et tout ça, puis finalement il y en a pas d'espoir cette année.
Non c'est l'espoir peut-être à cet automne, peut-être l'année prochaine là,
back order sur l'espoir.
Ils ont dit qu'il allait dans l'annonce qu'il y a aujourd'hui de Tenet, ils ont dit que ça allait quand même sortir en 2020. Moi c'est ça que j'ai vu, mais en tout cas on touche du bois. Mais puis l'autre affaire qu'ils ont dit, c'est que ça ne sera pas un release traditionnel. Ça faisait partie du communiqué de presse aujourd'hui. Fait que je sais pas, tu sais, ils ont dit que ça va pas être un day and date release. Fait que moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que ça va sortir en Chine, où est-ce que tout est relativement sous contrôle et tout le monde va au cinéma.
Mais t'as pas vu, genre, dernièrement, ils parlaient par exemple qu'en Chine, s'ils veulent le passer là-bas, il faudrait qu'ils réduisent sa durée à 2 heures. Ouais, ils disent en ce moment au cinéma, il est trop long. Parce que je pense que la Chine a réouvert leur cinéma, mais il y a comme une règle comme quoi, genre. En tout cas, peut-être que je me gourre. Ah, ouais. Il me semble que j'avais lu ça, que en ce moment, ils essaient de garder le monde dans la salle pas plus tard, pas plus longtemps que 2 heures, mettons. Fait que Tenet, vu qu'il fait 2h40, je pense. C'était trop long pour eux autres. Fait que faudrait qu'ils le coupent de 40 minutes.
Ou en deux parties, Tenet Part 1.
Ben, peut-être, pour rentrer dans les standards, genre, de la Chine, du moins, en ce moment.
J'ai dit qu'il s'est dit. Il a dit Dunkirk, 98 minutes, plus jamais. Parce que ça me semble que c'était quasiment...
Ouais, c'était fucking short. C'est son plus short. Mais non, son plus short, c'est Following. Là. Il était genre 1h10. C'est ça, 1h10.
Ouais, mais... apparemment que l'humain ne peut pas tolérer autant de Al Pacino qui est comme...
Non, Following, c'est avant. Insomnia, c'est ça.
C'est Insomnia, OK. Ah non, Following, c'est avec...
C'est son premier film.
C'est son premier avant Memento.
Tout décalisse, là, mais... Mais Tenet, c'est triste. Mais en même temps, c'est ça, mais... J'ai l'impression, mais ils peuvent pas non plus juste le sortir comme pour acheter. Je veux dire, c'est trop un film événement.
Ils referont pas leur argent, tu sais, c'est ça l'affaire. Le problème, c'est purement capitaliste. Là. C'est que quand tu dépenses 200 millions sur un Christopher Nolan, tu t'attends à ravoir 1 milliard.
Absolument.
Puis ils n'auront pas ça, tu sais.
Puis c'est aussi devenu une des rares. Pas nécessairement rare, mais une des valeurs sûres que justement lui il va ramener 1 milliard de par son nom puis de par son following. Fait que...
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, il a calissé un vrai avion dans les hangars. Là, mané, on peut pas checker ça sur ma TV chez nous.
Ouais. Non, c'est clair. Je voyais plein de monde sur Internet qui disait comme ah ben tu sais, sortez-les comme en ligne. Je suis comme oui, je comprends. Si t'es une personne qui veut jamais aller au cinéma anyway, toi, ça fait ton affaire. Mais moi, je veux le voir en IMAX. C'est cette grosse affaire-là exploser.
Mettez-le en torrent, m'a le checker sur mon phone.
C'est chiant, c'est ça. T'sais. Genre, toutes les fois que je vais chez m'a checké 5 minutes. J'en ai jusqu'à Noël. J'ai remarqué aussi, moi j'ai ça là, à la maison, j'ai de la misère quand je suis tout seul, je regarde un film, j'ai quasiment de la misère à genre le regarder d'une traite.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est pour ça que je m'ennuie du cinéma en général. C'est plus que quand je vais au cinéma, genre je vais pas à part comme on a parlé avant d'enregistrer, une fois quand je suis allé voir Bloodshot, je suis allé glander, mais je pense que j'avais des bonnes raisons.
Ouais.
Mais tu sais, la majorité du temps, je vais pas glander, je vais pas regarder mon phone, penser à autre chose.
Mais il y a beaucoup le phone dans l'histoire aussi. Tu sais, quand il est sur ta table, juste à côté, quand tu checkes un film, on dirait que ça vient des mains un automatisme.
C'est vraiment chier. Fait que genre, j'aime ça, moi, quand mon phone est mort, partir un film. Puis là, je vais le plugger à l'autre bout de l'appart, puis là, j'arrête.
Puis au cinéma, ils ont quand même fait une belle job de te faire sentir mal. Comme ils devraient faire la même job pour les masques, mettons. Tu te sens bien mal d'ouvrir ton phone au cinéma, il faudrait que tu te sentes aussi mal de pas porter un masque d'une place, mettons. Là.
Ouais, je suis d'accord qu'il y a un rapport à faire. Là,
Que la gang qui ont travaillé, c'est comme...
Je pense que c'est ultimement comme... Pour ça que les cinémas rouvrent, tu sais, on nous a appris à détester Tommy Texter, mais là...
C'est ça.
Faut qu'on déteste...
Susie Seed Kicker.
Fait que là, faut qu'on déteste... Sylvain sans masque.
Fort.
Ou quelque chose de même. Simon sans masque. Simon sans masque. Tu sais, des faut que le cinéma redevienne notre nouvelle place d'apprentissage pour ça.
J'aime ça.
Fait que là, on va commencer bien sûr avec nos films habituels de cette semaine.
C'est ça.
Alex, qu'est-ce que tu as écouté toi cette semaine?
Moi, j'ai regardé, quand je disais tantôt, j'ai regardé le plus de films cette semaine que j'ai regardé depuis le début de la pandémie, au rythme de un par jour, je crois. Mais là, vu qu'on a évité, je vais pas faire tous les films que j'ai regardés, parce qu'à un moment donné, le monde a d'autres choses à faire qu'écouter Voyeur de vie pendant 3h30. Et je pense que je vais parler de Possession de Andrzej Żuławski, un film de 1981, avec Isabelle
Adjani
et Sam Neill. Donc un film réalisateur polonais avec une actrice française, un acteur australien qui se passe à Berlin.
Je tiens à dire que la semaine passée, on a parlé de Money Plane et de The Old Guard.
Ouais, c'est ça.
Les voyeurs de vue, ça ratisse large.
Vous ratissez, vous êtes...
Ça ratisse large.
Des gars polyvalents.
Ouais.
C'est ça. Fait que Possession, un film que j'avais vu une scène de ça, tu sais, c'est un film que... j'avais pris un cours, je pense, style de cinéma féministe ou horreur féministe dans l'horreur, on en parlait même quand j'étais à l'université. Puis, il y avait beaucoup de films qu'on n'avait pas vus, mais tu sais, qu'on avait vu des scènes. Puis, il y a comme deux sortes de films dans ma tête que je suis pas sûr si je les ai vus. Un, c'est des films que j'ai vus des bouts à l'école. L'autre, c'est des films que j'ai loués de la grande bibliothèque qui ont commencé à sauter à mi-chemin. Fait que là, j'étais pogné puis je pouvais pas le finir. Fait que Possession, je pense que c'est dans la première catégorie, mais je pourrais pas vous dire avec absolument. Mais ça passait souvent à Télé-Québec aussi dans le temps. C'était, c'est un film quand même, je pense qu'on peut dire le plus grand film de Zulawski.
Moi, je pas là-dedans. J'aime mieux l'important, c'est d'aimer, mais c'est reconnu mais comme du moins sont plus reconnus. Oui, ils sont plus reconnus, ouais. J'ai l'impression.
J'ai pas regardé, mais j'en parlais parce que j'ai regardé un autre Zulawski cette semaine. Mais c'est, donc, c'est un film à propos d'une séparation, un divorce. Sam Neill, qui est un genre d'espion, revient à la maison après une mission, et sa femme, jouée par Isabelle Adjani, essentiellement le laisse pour des raisons nébuleuses. Elle a un amant qui s'appelle Heinrich, qui est un genre de leader de secte sensuel avec la chemise déboutonnée, très étrange, qui est joué par Heinz Bennett. Puis, mais c'est, on se rend compte que c'est pas vraiment à cause de Heinrich qu'elle laisse. Puis, tu sais, elle est très évasive, puis là, elle devient de plus en plus. Au début, catatonique, puis après ça, hystérique. Mm-hmm. Puis tout chie, lui, devient hystérique. Là, il y a un enfant qui s'appelle Bob. puis tu sais, tout est comme en fonction de Bob, mais Bob est souvent pas là. T'sais. Ils veulent tous les deux protéger Bob, mais en réalité, Bob, il est comme. Il est quasiment comme un meuble. Ouais. Je sais pas comment d'autres décrire ça. Puis c'est très difficile à décrire quand même parce qu'il se passe presque rien.
Pour vrai, c'est dans peut-être mon top 10 de j'aime calissement ce film-là, mettons. Là. Mm-hmm. Je l'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, je serais incapable, je pense, de dire c'est quoi l'histoire de ce film-là.
Y en a
genre
pas
de
vraiment.
Film que j'adore pour ce qu'il représente, mm-hmm. mais demande-moi pas de te le raconter. Ouais, je l'ai vu peut-être 5-6 fois, mais mm-hmm. tu sais, je sais pas c'est quoi qui se passe dans ce film.
C'est très inquiétant, c'est très. Tu sais, puis l'affaire, c'est que c'est pas vraiment un film d'horreur. Ça s'appelle Possession, mais tu sais, c'est pas. Le twist, c'est pas qu'elle est possédée nécessairement. Mais c'est extrêmement malaisant, puis aussi, ça change de ton assez rapidement. Oui. T'sais. Fait que c'est vraiment dur à expliquer, mais. Tu sais, je pense, mettons, pour les gens qui ont pas beaucoup d'expérience avec des. Les soi-disant films fuckés. Celui-là, je trouve que ça fonctionne bien parce que il te garde tout le temps en haleine. Même si tu es comme, j'ai aucune calisse d'idée qu'est-ce que je tenterais de regarder.
Ouais.
Tu sais, c'est tout le temps très. C'est super.
Mais
beau,
il utilise les codes, en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça reste les codes du film d'horreur. Tu peux t'y retrouver en faisant comme, ben, ça me semble être ce qui ressemble plus à.
C'est
parce
ça.
Que tu écoutes d'autres Zulawski puis tu es comme, what the fuck is going on? Ouais, je sais même pas. Mais celui-là, comme c'est vrai qu'il. Probablement sont plus connus, sont plus accessibles parce qu'il reste quand même dans l'horreur, dans la possession. Mm-hmm. Tu sais, il y a tout le temps comme cette affaire-là. Mais après, c'est que ça.
Mais tu sais, c'est aussi comme un grand film de séparation. Tu sais, je trouve que c'est comme. C'est vraiment difficile de parler de ce film-là. Fait que je regrette un peu d'avoir choisi ce film-là.
Non, mais tu fais.
Mais. C'est aussi que c'est vraiment beau.
C'est t'sais, magnifique.
C'est incroyable. C'est tout en steadicam. Là,
ouais,
Zulawski, c'est comme son shit un peu. Là, ouais. Faire des longs, longs plans en steadicam. Ouais. Puis, c'est grotesque, mais c'est beau. Tu sais, fait que tu regardes. Des affaires que tu regardes, que, sans rentrer dans les spoilers, qui sont dégueulasses. Mais, c'est vraiment. C'est prenant, puis c'est un peu comme entraînant de regarder des trucs qui sont comme grotesques et dégueulasses.
Mais ben Zulawski, tu sais, moi, c'est ça que j'aime énormément de son cinéma. C'est que c'est un cinéma de l'hystérie, je trouve. Mm-hmm. Puis c'est vraiment genre un mané. Tu sais, celui-là, comme tu dis, c'est un slow build, mettons. Mm-hmm. Là. Sauf que t'en as, mettons, Amour Braque, là, où est-ce que. Tout de suite, il pogne le volume puis il calisse à 11. Là,
ben, c'est ça.
C'est comme tu startes le film puis t'es dans le tapis. Tu sais, Possession, il y a quand même un crescendo, t'as une scène, tu sais, qui est comme celle d'Isabelle Adjani dans le métro, justement, qui, tu sais, qui est comme dans le tunnel du métro, qui est comme la séquence, tu sais, qui revient souvent. Mais, tu sais, il y a quelque chose dans cette hystérie-là, dans quand ça pogne son énergie, mettons, Possession, pour n'importe quel film de Zulawski, c'est tellement quelque chose que tu reçois dans la face, puis que t'es comme, il se dégage de ça, genre, juste comme une énergie, une folie qui vient te chercher, puis que tu regardes ça, puis moi, tu sais... Je regardais ça comme au début quand je commençais à m'intéresser au cinéma, puis j'ai tombé là-dessus, puis j'étais comme justement quand tu dis un peu introduction au cinéma fucké, moi ça a été ça, tu sais, tu tombes là-dessus, puis t'es comme qu'est-ce qui se passe? C'est donc ben weird ce qui est à l'écran, mais je suis pas capable de détourner mon regard, puis je suis full happé, tu sais, puis je n'avais pas encore temps d'écouter de ça, des films fucké maintenant.
C'est
là,
ça. Puis tu sais, là j'ai écouté cette semaine aussi The Devil, tu sais, qui est son film polonais d'époque là. Qui, tu sais, qui a beaucoup, visuellement, ressemble beaucoup à Possession, c'est encore des longs plans steadicam, mais qui est comme une affaire, de révolution polonaise, ça se passe en 1793. Puis ça, j'ai trouvé que, tu sais, comme Possession à côté de ça, ça a quand même l'air assez calme et, tu sais, assez posé. Parce que The Devil, c'est juste du monde qui crie à ce type et qui se donne des taloches avec des roches par la tête pendant 2 heures. Puis, tu sais, c'est un peu too much. Là, c'est super impressionnant. Mais c'est qu'à un moment donné, j'étais comme, tu sais, je comme...
Mais t'as-tu écouté, c'était-tu les deux seuls que t'as écouté, tu l'as
c'est les deux que j'ai écouté pour le moment, ouais.
Mais... À un moment donné, ça, tu catch on, puis si t'aimes ça, tu en viens à aimer profondément ça, puis tu vas écouter genre les autres, puis il y en a que c'est pire, là. Ouais, pour vrai, tu sais, la femme publique, ça a pas de calice de bon sens, tu sais.
Ça manque un peu à ma culture, ça. Fait
mais si t'aimes ça, puis t'as eu un petit quelque chose de genre, ah, j'ai embarqué, je pense que tu vas embarquer, puis à un moment donné, ça devient nice, puis tu sais, t'as mal aux oreilles à la fin parce que c'est juste du monde qui crie. Puis, tu sais, des fois, le micro aussi, il pique un peu, genre, parce que, je sais pas, parce qu'ils sont pas capables de supporter.
Il y a des affaires que c'est clair que c'est pas une take optimale, techniquement, mais sauf que tu vas pas redemander à l'acteur de faire ça. Tu sais, ils sont en train de se rouler à terre. À un moment donné, Isabella Gianni, à 5, genre, on sait pas d'où que ça vient, ça coule le long de sa tête, genre, du sang, puis t'es comme à 5, à 5 de son aura.
Ok, ouais.
C'est comme...
Okay, en fait, ce qu'il appelle dans la lutte un blade job. Là, c'est coupé le haut du front avec une lame de rasoir.
Mais on voit pas de blessure, on voit juste du sang, pis t'es comme, hey, tabarnak. Fait que tu sais, comme ça, en tout cas, je trouve que c'est vraiment, tu sais, Possession, je suis un peu arrivé en retard au party pour ça, là, tu sais, mais ça, c'est genre.
Il y a des parties qui finissent tard pis qui sont fucking nice, c'est ça. Peu importe l'heure que t'arrives.
J'en ai parlé au Voyeur de Vue aussi, tu sais, comme, ou j'en ai, juste avant qu'on embrasse, je disais ça, tu sais, quand j'étais plus jeune. Je overloadais sur le même cinéaste ou sur le même type de film tout en même temps. Puis là, ce qui arrive, c'est quand t'es plus vieux, tu te rappelles plus si tu l'as vu ou c'est dans quel film. Ou tu sais, t'as pas assez un souvenir clair. Parce que quand t'es comme boulimique de film, quand tu commences, tu t'en fais tout, t'en fais trop. Puis je suis quand même content d'avoir attendu aussi. Tu sais, je pense que justement, en sortant d'une séparation quand même relativement récente, à 33 ans, ça fait plus de sens de regarder Possession que quand j'étais un petit cul 19 ans, puis tu sais...
Mais moi, c'est ça, moi, je l'écoutais à 19 ans, puis une année, je l'ai réécouté plus tard, parce que je me disais, comme, peut-être ça a mal vieilli, puis tu sais, c'est vraiment le choc qui m'a habité quand j'ai vu, parce que j'avais jamais vu un film comme ça. Puis non, tu sais, je l'ai réécouté il y a peut-être, je sais pas, 5 ans, puis tu sais, j'étais comme, OK, non, tu sais, ça marche encore, parce que... Mais je sais pas si tous ces autres que. Parce que moi, ça a été ça. Quand, genre, à 19 ans, j'ai comme après ça tout écouté les Ulavski. Puis j'étais comme, what the fuck? Mais là, peut-être que si je réécouterais les autres. Mais quoi que la Maubraque, j'ai vu à Cinémathèque, genre 35 mm, il y a comme une couple d'années. Puis c'était fucking nice.
Ouais.
Mais en tout cas.
Ouais, c'est ça, la Cinémathèque, rest in peace, ou pas. Ça recommence. En fait, je pense que ça recommence le 5 août, la Cinémathèque.
Bon, on espère, ouais. Colin.
Peut-être qu'il pourrait passer Tenet.
Ouais, c'est vrai. Imagine.
Ça serait vraiment nice. Comme, ouais, Internet ouvre à la Cinémathèque puis au cinéma du parc à Montréal. C'est juste là que tu peux aller les voir.
Des fils tout au long du bloc.
Ouais,
devant
comme dans les années 60.
Là. Ouais, puis ils vont au bar qui change tout le temps de nom à côté du cinéma du parc. écoute, moi, pour le film que j'ai visionné cette semaine, moi, j'ai été avec quelque chose. Un film que j'avais vu, je pense que je devais avoir comme... 10 ou 12 ans. Je me rappelle, j'ai un souvenir vraiment de l'avoir vu à TQS, genre en après-midi quand j'étais jeune. C'est The Untouchables de Brian De Palma, sorti en 1987. Et c'est ça, j'en gardais un bon souvenir. Je gardais. C'est intéressant parce que quand tu regardes le générique de The Untouchables, le générique est comme un gros flex parce qu'il y a tous ces acteurs-là dedans. Il y a plein d'acteurs dedans. Puis à un moment donné, il apparaît juste Robert De Niro dans le rôle de Al Capone. T'es comme, tu sais, je me rappelle que c'était le cas, mais là, je penche vers l'avant. Puis là, après, c'est comme, et Malone, et Sean Connery dans le rôle de Malone. Fait que là, tu te piques comme, voyons donc. Puis là, après, quelques affaires dit écrit par David Mamet. T'es comme, pardon? Puis là, après, c'est costume par Giorgio Armani, je suis comme, quoi donc? La musique de Ennio Morricone, tu sais.
C'est ça.
Puis après, c'est musique par Ennio Morricone, je suis comme, tu sais, c'est même tout le long. C'est un des rares génériques qui renchérit de par ses noms.
ça finit par De Palma.
C'est vraiment nice. Mais c'est drôle parce que. Juste une petite anecdote, c'est que je me rappelle. Il y a une couple d'années, mettons, j'étais sur Spotify ou je sais pas quoi, puis là, j'étais comme, ah oui, j'aime le thème de The Untouchables. Fait que là, je vais écrire le thème de The Untouchables. puis pour l'écouter, pour me craigner pendant que je travaille. Mais le véritable thème de Untouchables, qui est utilisé dans le film, c'est pas celui qu'on entend au début qui est vraiment qui est casse, puis que quand t'écoutais le film à TQS, t'entendais un petit 5 secondes alors que ça allait
dans
à pause,
les bumpers,
bumper, puis ça revenait. C'est comme le... c'est ça, là. J'ai vu dans le même 2-3 semaines, pour la première fois, ben ça je l'ai revu, mais pour la première fois, Taking of Pelham 1-2-3, deux films qui commencent avec des gens de gros beats comme ça qui te crinquent. Bref, le thème qui jouait sur Spotify, c'était comme le thème héroïque des Untouchables, qui est comme un peu John Williams, Alan Silvestri-esque. Puis je me rappelle d'écouter ça, puis ça, je me rappelais zéro dans le film, je me disais comme, c'est pas ça le thème d'Untouchables, comme, repousser ça de la main. Mais bref, une petite parenthèse pour... The Untouchables est un film qui est basé justement sur l'histoire vraie de comment Elliot Ness et un groupe de policiers qui étaient considérés comme incorruptibles ont finalement pincé Al Capone. Il y a eu une télésérie de tout ça quand ma grosse différence, quand mes parents étaient jeunes, parce que je me rappelle quand on écoutait le film à TQS, mes parents disaient comme, ah oui, on écoutait ça quand on était
jeunes.
C'est
comme les années 50, c'est dans les premières séries, là. C'est comme 58 à 61.
Fait, Brian De Palma, 2-2 en adaptation de les téléséries,
ben
si on considère ça,
good job.
Avec Mission Impossible. J'ai écouté ça et j'ai pas grand chose d'original à dire, excepté que j'ai trouvé ça vraiment bon. Et c'est rempli de scènes vraiment bien réussies qui sont... Un joueur de basketball qui rentre dans le net constamment...
Mais c'est juste des fucking set pieces.
Sans aucun effort.
C'est juste des set pieces back-à-back.
Ouais.
Tu te rappelles de tous les hosties de séquences, mais tu écoutes le film, t'es comme, ah fuck, il y a cette séquence-là qui s'en vient. Puis il va te hopper ça, ben, un peu comme le fucking générique. Là.
Mm-hmm.
Le film est à l'image du générique, dans le sens que t'es comme, eh, nice cette scène-là, hein, mais check bien, Sean Connery va se faire tuer. Enfin, ça, check bien, c'est la scène que genre l'attaque du train, puis après ça, ben, check bien, c'est la scène de fucking escalier. Il y a comme toutes des fucking set pieces, un après l'autre.
Puis à un moment donné, le film est très western-esque, mais c'est juste qu'il se passe dans une ville, excepté comme une scène qui se passe au Canada, au milieu du film, et c'est comment que les incorruptibles, les Mounties vont pogner les hommes d'Al Capone qui font la contrebande de whisky, parce que ça se passe à l'époque de la prohibition, puis essayer d'empêcher le monde de profiter d'alcool, d'affaires comme ça. Et fait que t'as essentiellement une... Tu sais, il y a un pont, puis plus loin, t'as une maison où les incorruptibles se parlent. Mais la façon dont c'est construit, c'est clairement ils ont construit une maison qui a pas de quatrième mur. Fait que la caméra panne constamment de... Tu sors de la maison, mais tu vois, ça dépasse le mur, puis ils sortent pour de vrai, puis là, ça rentre en dedans. Et juste ça, ça rend cette scène-là extrêmement excitante. Puis c'est ça, c'est de même tout le long. Il y a aussi, comme, un moment donné, il y a un personnage qui est tué, assassiné dans un ascenseur. Fait que là, tu sais, t'as un steadicam de... Cette personne-là rentre dans un ascenseur avec un meurtrier qui est joué par l'informe Billy Drago, qui a un beau sou de crème, qui a un beau sou de crème qui, je pense, est clairement l'inspiration d'une des belettes dans Roger Rabbit. Là,
c'est clair.
C'est sûr
c'est
que c'est
clair.
Lui. Puis, tu vois lui qui rentre, qui va tuer quelqu'un dans l'ascenseur. On suit Elliot Ness qui est joué par Kevin Costner avec Sean Connery. C'est weird que Sean Connery ait pas jouer autant de personnages de mentors comme ça, parce que tu sais, il est dans Highlander 2 puis dans The Rock, puis pas, tu sais, il y a pas, j'ai pas un souvenir de Sean Connery qui joue beaucoup de mentors, mais là-dedans tu vois, c'était quasiment comme ça, peut-être la nouvelle phase de sa carrière qui aurait pu coaster là-dessus vraiment longtemps. Fait que, bref, la caméra suit ça. Après, on voit l'ascenseur qui a le meurtre là. Sean Connery décide d'aller de tourner au bord du building pour aller chercher l'autre entrée de l'ascenseur pour voir le résultat du meurtre. Tu sais, c'est le même sans arrêt. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça a tout le temps l'air sans aucun effort. Ça a tout le temps l'air super, ça glide, c'est facile, c'est vraiment fucking bon.
Tu sais, moi, j'ai regardé ça aussi quand j'étais jeune, puis tu sais, justement, pour encore louper sur ce que je disais, quand j'écoutais, tu sais, j'allais aux vidéos puis je louais trois films de gangsters, puis j'écoutais ça back à back. Fait que moi, je l'ai réécouté, Untouchables, quand j'étais en béquille. Fait que genre en 2020. Puis dans mon souvenir, moi, c'était comme un gros film épique avec beaucoup de jasage dans des pièces avec du bois, ces murs. Puis quand je l'ai écouté, j'étais comme ah, non, c'est 2h10, puis genre, ça gaule tout le long. C'est vraiment, c'est pacé comme une bande dessinée, dans le sens, il n'y a pas beaucoup de c'est beaucoup de scènes de deux pages épiques.
Il y a beaucoup de pages, de spread de deux pages.
Ben,
justement, la présentation de Robert De Niro en Al Capone, qui est chez le barbier.
Ouais, une espèce de... Il n'y a pas un God's Eye View? Un peu,
oui. C'est quand il bat le gars avec le bat.
Ouais. En fait,
ça, c'est la deuxième scène de Capone.
Oui, les scènes de Capone commencent tout le temps vraiment de haut et descendent à lui. Mais oui, quand tu le vois au début... En plus, il y a un mini... Il y a juste un texte qui disait comme... Il imposait sa loi par le Tommy Gun et le Hand Grenade, que ça, c'est fucking sick. Parce que, tu sais, j'imagine que c'est potentiellement Mamet qui écrit ça, mais Brian De Palma, c'est lui qui écrit le crawl du premier Star Wars. Je suis comme, y a-tu écrit ce crawl-là qui casse là aussi, là?
Mais ça a l'air de De Palma, mais qui s'amuse à se fuck aussi, tu sais, qui sort tous les éléments de son langage, tu sais, ne serait-ce que... Le double focus. Il n'y a pas de split screen dans celui-là, par exemple, je pense. Là, si je ne m'abuse, il n'y en a pas. Mais...
Non, il n'y en a pas.
Mais en tout cas, mais c'est un genre de femme fatale. T'sais, quand femme fatale, ça peut résumer de son cinéma. Mais avant, il y avait quand même eu Untouchable parce qu'il s'amusait aussi. Pis tout ça, pis c'est où est-ce que tu as un scénariste comme David Mamet, puis je pense qu'il se base là-dessus, puis qu'après ça, il y a juste... Il s'amuse, il y a du fun, puis tu sais, tout le monde embarqué. Ce film-là, il est juste fucking plaisant à regarder.
Je pense qu'il y a un Lee Art Linson qui est le producteur de ça. Mm-hmm. Il a écrit une couple de livres, là. Il y en a un, c'est What Just Happened, puis l'autre, c'est... Parce que je les ai, sont là, je les vois pas, je suis trop loin, mais... Puis il a écrit des chapitres un peu sur chaque film qu'il a produit. Puis il y a un chapitre sur ça, sur Untouchables, puis... Autant que ça a l'air maîtrisé, j'ai l'impression... De long, l'histoire que lui raconte, tout est un peu comme accidentel.
Ah ouais, hein?
Le casting, c'est arrivé juste à la fin, tu sais. Sean Connery, il voulait pas faire un personnage de soutien, tout ça... De Palma était quand même, c'est comme, tu sais, c'est du commercial. De Palma venait juste de faire Wise Guys, qui est comme une comédie avec Joe Piscopo et
qui a super bien marché.
Ouais, que tout le monde, hein. Mais, tu sais, qui est comme pas full bon, mais c'est quand même intéressant pour voir Brian De Palma réaliser un film, tu sais, avec des affaires, tu sais, des touches weird. Mais, tu sais, je pense qu'il était pas vraiment down à être dans un... une facture commerciale, deux films de suite, ça, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup... Tu sais, il y a beaucoup de succès inespéré dans Untouchables. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que ça a vraiment l'air sans effort.
T'sais. Mais la grosse scène, je pense, du film aussi, la fameuse... l'hommage au cuirassé Potemkin, qui est la descente des marches et tout ça, je pense que c'est aussi, c'est arrivé genre... faut qu'on trouve un moyen, parce qu'il me semble que le set qu'on est supposé utiliser pour telle scène, je pense que ça se passait sur un train, je suis pas sûr.
Ouais.
Mais je pense qu'il se poursuivait sur un train, puis à un moment donné, ça a chié, ou bien coupure de budget. Puis là, en fait, ben faut que vous shootiez de quoi de bien plus simple. Il y avait hommage à Cuirassé Potemkin dans une station de train. Et
ça c'est vraiment drôle parce que avec le landau du bébé, tout ça, t'sais, Andy Garcia qui pogne le landau du bébé puis qui il vise le gars là, c'est une image tellement badass que tu penserais qu'elle aurait été que c'était une image workshopée, mettons, que c'est une image qui a été travaillée vraiment longtemps. Mais non, d'ailleurs aussi, c'est une affaire qui me photo au visage, c'est dans ma tête. Kevin Costner, il est tout le temps comme un peu... Il a de l'air de ce qu'il y a dans JFK dans ma tête. C'est comme mon image basic de base. Il a de l'air plus vieux. Puis là, il a tellement l'air jeune. Sa face est tellement lisse que j'étais comme... Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, puis aussi, Andy Garcia était tellement beau. Là, j'en revenais pas.
Ça a donné aussi lieu à une belle parodie après ça dans le film avec Leslie Nielsen.
Naked Gun.
Mais ils ont fait un hommage à la scène de...
Oui.
Je pense que c'est dans 33 et un tiers. Ils ont comme la scène...
Ça fait
avec des landaux, mais c'est comme il y a plein de bébés, là, ça me semble, dans leur parodie.
Je suis dû pour les regarder parce que c'est... Juste quand j'ai pogné des bouts à TV récemment, mettons, de L'agent fait l'affaire, je suis comme, qu'est-ce que c'est bon. Je suis dû pour les écouter, là. C'est vraiment fucking bon. Mais ouais, bref, c'est ça. Juste vraiment bien. Puis c'est drôle que ça, c'est à cette époque-là, c'était vu comme Brian De Palma a décidé de faire du popcorn.
Ouais.
Puis c'est ça qui arrive. Tandis que maintenant, on regarde ça, faisait comme fucking shut up. Non,
c'est sûr. ça sort dans ce format-là. Là. Cette année, c'est pas une bonne année. Mais mettons, l'année passée, ça gagne 8 Oscars. Tu sais, le monde, là, il se pompe, là, il se roule à terre.
Je sais pas, pour moi, c'est un peu genre Mission Impossible, Fallout, pis ça, mettons. Dans ma tête, c'est un peu le même niveau de fun à regarder un blockbuster.
Mais c'est ouais. tellement plus classique, tu sais.
Oui, genre, c'est plus classique.
Ça a comme le...
Oui.
Le...
Non, non, il y a plus d'audace dans la mise en scène, mais en termes de plaisir, puis de set piece, puis que genre, ça arrête pas, mais qu'en même temps, t'as quand même un regard, puis t'as quand même un point de vue, puis tu sais que c'est pas juste un esti de... Je sais pas, de blockbuster dont on se calisse au final. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai retrouvé ce plaisir-là dans Fallout, mais tu sais, je sais pas pourquoi j'en parle en ce moment, mais.
Ah, ben, parce que tu parles de la série originée par.
Ouais, c'est ça, exact. C'est impossible. Mais dans le sens que, tu sais, je pense qu'il y en a encore de ce genre de blockbuster-là, que tu sais, t'as moyen après ça que. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est McQuarrie qui a réalisé Fallout, mais il n'y a pas le même...
Les deux derniers, puis il fait les deux prochains.
Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas le même bagage cinématographique que De Palma, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, mais il y a quand même. Une volonté dans les set pieces, dans l'action, de rendre quelque chose.
Mais c'est une affaire qu'on a parlé déjà au podcast aussi. C'est, l'affaire, c'est que Brian De Palma et cette génération-là, ils méprisaient autant un peu l'aspect commercial de leur travail. Fait que quand ils faisaient des affaires commerciales, c'était « mais je vais faire ça comme je veux, moi ». Tandis que les réalisateurs maintenant, qui ont peut-être notre âge ou un peu plus vieux, ils ont grandi avec ces films-là. Fait qu'eux autres, leur but, c'est de faire des films comme ça.
Ouais,
plutôt que de diverger, de prendre un chemin différent, puis dire « Fine, je vais faire ce que vous me demandez, mais ça va être comme moi je veux. Je vais utiliser les outils que vous me donnez pour faire mon affaire à moi ou essayer de me faire du fun, moi, personnellement. »
Ouais, c'est, y a comme une affaire avec les genres qu'il faut que tu... Des affaires qui ont vraiment beaucoup de succès, c'est qu'il faut qu'il y ait un genre de... Tu sais, un pourcentage comme de peut-être de d'amour, peut-être pas nécessairement sincère, mais d'amour pour ça. Mm-hmm. Mais mettons 25%, mais il faudrait que ce soit 75% comme « Ah, il y a des affaires qu'on peut enlever puis que moi, je vais rajouter par-dessus puis ça va faire que le film est le meilleur.
Ouais. »
Puis je pense que c'est ça qui est derrière plein de films, mettons, de notre jeunesse que nous autres, on aime puis qui nous ont marqué et qui est peut-être pas là immédiatement. Comme, l'exemple qu'on utilisait, c'est que, tu sais, c'est ça comme Bob Gale et Bob Zemeckis, ils visaient plus haut quand ils ont créé Back to the Future. Non, alors, si y a la personne qui veut créer Back to the Future, ils vont pas se rendre à ce niveau-là.
Mais il y a quelque chose dans, tu sais, avec De Palma, par exemple, c'est que ça vient dans le cinéma, dans son langage cinématographique, qui est comme je vais essayer des affaires, puis je suis un auteur qui, tu sais, fait que ça devient purement dans sa vision du cinéma, tu sais, plus que dans conceptuellement, tu sais, c'est de la façon qu'il habille ses affaires, que t'es comme, il essaye des trucs dans sa mise en scène que tu t'attends pas d'un blockbuster.
Ben c'est ça, c'est exactement, puis ça vient, je pense, tu sais, un projet comme Untouchables maintenant, si c'était pour sortir,
ouais.
Ça pourrait être, mettons, si il monte ce projet-là dans un studio, il prendrait moins de chance quand même, même si.
Ça commencerait pas avec une petite fille qui explose.
Non, c'est ça. C'est vrai, il y a une petite fille qui explose.
Une petite fille. Moi, j'écoute la fille, puis je suis comme. Tu sais, il y a Al Capone qui se fait un petit peu couper en se rasant, puis déjà là, il est de la répeurant. Mais là, la scène d'après, une petite fille explose!
Oui, mais sinon, tu voudrais pas qu'il meure autant.
Non, mais j'ai trouvé ça vraiment écœurant. Comment c'est comme, OK, ce film-là, all bets are off en commençant.
Ouais.
Parce que, justement, si.
Tu veux des petits-enfants ou des. Il fait ça dans. Carpenter fait ça aussi dans Assault on Precinct 13. Il y a une petite fille qui se fait gonner d'en face dans les 20 premières minutes. Puis là, t'es comme, all right, j'embarque.
Toxic Avenger aussi, le premier. Ouais. Un petit gars qui se fait rouler dessus par un char.
Après ça, tu et sa tête éclate.
Sa tête éclate.
Il recule sa tête, la tête éclate.
Ça va.
Là, t'es
marquer.
Genre, bon, ben, ok, ça a l'air que là, je peux pas m'en aller. Là, c'est, vous m'avez, les
j'suis
amis.
Pogné ce test.
Fait que bref, c'est ça. Je l'ai vu. Il était en vidéo sur demande sur Crave. Si vous êtes sur Crave, vous allez sans doute avoir accès à ce film-là. Alors, puis je pense qu'il était sur Amazon Prime aussi, si j'ai vu, ou sur Amazon, sur le channel MGM d'Amazon Prime. Si vous avez pas vu, puis vous voulez comme une bonne vue de gangster, puis mettons une bonne vue de gangster aussi, vous pourriez écouter avec vos parents. Là, ouais. Ça serait. C'est vraiment ça coche. Je voulais aussi juste mentionner comme justement. Robert De Niro, il est vraiment pas dans le film tant que ça. En tant qu'Al Capone, il est vraiment. Puis tu sais, si tu penses à, mettons, ce qu'il y a sur la page, entre guillemets, il n'y a pas tant d'échanges que tout ça. Mais on dirait, tu vois qu'ils ont dit à Robert De Niro comme. conçois Al Capone comme tu veux. Puis vas-y, laisse, exagère tous tes plus gros tics.
Exact.
Puis, tu sais, c'est comme.
Vas-y quand, à fond, là.
Tu sais, dans.
Fais ton Jack Nicholson.
Fais ton Jack. Oui, c'est ça. Jack est là. Ou, tu sais, c'est comme, mettons, il y aurait une face dessinée sur un ballon, mais là, gonfle trop le ballon. Fait que là, la face est démesurée. C'est ça qu'il fait. Puis, c'est écœurant. C'est, à chaque fois qu'il apparaît, là, tu sais. Il est comme. Ben, justement, l'aspect Jack Nicholson, c'est que c'est le fun. T'es comme content d'être là. T'es comme vraiment d'être dans le party où ce qu'il tue quelqu'un avec un bat. Mais c'est pas toi. Mais là, après, t'as peur pareil de lui, là.
Mais aussi, là, impressionnant aussi que, tu sais, De Niro, il avait pris comme 60 livres pour faire Raging Bull. Il les a perdus dans l'année d'après. Là, 5 ans plus tard, il est comme, faut que je reprenne 40 livres pour faire Al Capone.
Tu le vois pas.
As-tu vu Capone de Josh Trank?
Je l'ai pas vu encore.
Je crois que non.
Non, je me demandais justement si ça se trace bien dans le Capone-verse.
Genre, ça a tellement eu des reviews de merde que je suis comme, c'est sûr que je vais le regarder puis je vais être genre, ok, j'aime ça un peu, genre, je me sens mal. Puis là, je comprends. Là, j'essaie de me justifier un peu puis c'est comme... Fait que tu sais, j'étais pas prêt à vivre ces moments-là en pandémie. Peut-être là, ça s'en vient, là, mais c'était trop un arc complexe pour moi en pandémie. Ouais.
De Niro aussi qui voulait, je pense que j'ai lu dans les fun facts que sur le set, il avait demandé à avoir des sous-vêtements de satin pour genre pour être sûr de comment se sentait Capone quand il portait genre ses sous-vêtements de satin.
Ben là, tu te fais habiller entièrement par Giorgio Armani. Pourquoi tu demandes pas? Ouais, ben, peux-tu avoir
c'est
ça aussi
que
en
tes
plus?
Tes bobs sont en satin en plus, là, Chris.
Ouais.
Ça donne le goût de porter des sous. Tu sais qu'on serait beau, toi, en sous.
Ouais, tout fucking stylish. Tu sais, Annie Garcia qui porte un genre de gros manteau de cuir que ça aurait l'air d'une sacoche sur toutes nous autres, mais sur lui ça paraît bien, là. C'est merveilleux. Ça est habillé comme dans un film, là, c'est de toute beauté. Mais là, passons d'un film de 87, on va passer d'un film de 88, juste l'année.
Juste après.
Juste après, que toi t'as écouté cette semaine, puis que moi j'avais pas vu, fait que je l'ai écouté sneaky aujourd'hui.
Ben, bizarrement, tu sais, c'est mon premier Studio Ghibli, en fait. C'est mon premier Miyazaki, j'avais jamais...
Non, moi j'en ai vu aucun non plus, je suis pas...
c'est bizarre, parce que complètement. Pour beaucoup de gens, c'est comme, ben oui, tu sais, j'ai écouté ça quand j'étais kid, tu sais, mais moi il y a quelque chose de... Même, je me rappelle souvent, quand j'étais kid, on dirait que j'écoutais même pas tant des films de kid, tu sais. Ouais. C'était vraiment comme... J'écoutais des Disney, des enfants non, mais tu sais, quand j'étais jeune, c'était pas beaucoup... j'écoutais plus des films d'action puis des films que ça. Puis là, ben j'ai un enfant de 2 ans. Mm-hmm. Puis souvent, ces derniers temps, c'est une des occasions d'écouter des films parce que les occasions sont tu sais, le soir, je suis brûlé, j'ai pas... Souvent, si mettons j'ai joué à un jeu vidéo, mais je joue au jeu vidéo, mais j'écoute pas de films. Ou si mettons j'ai
parti une série. Des films, mais ouais, c'est que là, faut que tu te repenses, là.
Mané, c'est ça, je peux plus faire que j'écoute à rien. J'écoute plus rien, sauf que des fois, mettons, il mouille. Puis là, t'es en pandémie, puis là, mané, ta fille, tu sais, comme genre, elle m'a tombé ses nattes l'avant-midi, je vais y mettre un film, puis on va pouvoir relaxer. Fait que c'est ça qui est arrivé samedi. J'ai écouté mon voisin Totoro, my neighbor Totoro. Et ma foi du bon Dieu, j'ai été charmé, j'ai été ça m'est rentré direct dans le cœur. C'est y a pas un gros plot, c'est pas un film si narratif. C'est une famille, un père, 2 enfants qui arrivent, qui déménagent dans une campagne à quelque part et qui arrivent dans une vieille maison que tout le monde pense qu'elle est hantée. Et y a des esprits malins. Pendant ce temps-là, il y a sa femme, qui est la mère de la famille, qui, elle, est à l'hôpital. Elle est malade. Et c'est les enfants qui passent le temps et qui font la rencontre d'êtres magnifiques et de leur imagination et d'esprit un peu malicieux, mais gentil, Totoro, puis 2 autres genres d'esprits, whatever, là, qui le suivent un peu partout. Puis c'est vraiment comme un film sur, je pense, tu sais... passer à travers ces épreuves-là, puis en développant son imagination, puis en développant son sens d'être magnifié par les choses, puis sur l'enfance, en fait, tu sais, mais c'est tellement juste fucking beau.
Ouais.
Ça n'a pas de crise de sens, puis tu sais, on est tous sur Letterboxd et on essaie tous de penser à des petites critiques rapides à faire. Et moi, tout de suite, mon impulsion était de faire « Mais pourquoi je regarde des films d'animation en 3D? » Tu sais, il y a quelque chose de... C'est tellement... Ça, c'est fluide, c'est beau, c'est magnifique, tu sais, tu regardes ça, puis c'est juste un poème à chaque style d'image. Puis, tu sais, après ça, je veux pas enlever non plus le... je veux pas diminuer le travail de ceux qui font de la 3D, mais tu sais, il y a quelque chose que je trouve qui se perd, puis que là, il y avait quelque chose de... Ça sonne peut-être mon oncle, ce que je dis, mais tu sais, je vois ça, puis je vois plein d'autres films, puis je suis comme, ben ça, c'est 88, puis j'ai l'impression que je pourrais regarder ça, mettons, puis pas savoir c'est sorti quand, puis avoir l'impression que c'est sorti la semaine passée, tu sais, dans le sens que c'est tellement... Pas, t'sais, alors que tu regardes Toy Story, le premier, t'es comme 3D, un petit peu plus difficile, un petit peu plus l'air de jouer à mon Nintendo 64, mettons. Mmh. T'sais, y a quelque chose
ouais,
qui...
puis même là, c'est pas juste technologique, mais c'est aussi des. Mettons, t'sais, les premiers Pixar, il y a beaucoup de. Les personnages gesticulent énormément et clignent des yeux comme une performance live action humoristique vraiment caféinée.
Ouais.
Versus, parce que là, ils pouvaient le faire, mais une affaire comme justement, dans moi, ce qui est, j'étais vraiment dans My Neighbor Totoro aussi, je trouve ça vraiment fabuleux, c'est, tu sais, l'animation, c'est une caricature du mouvement humain, puis, tu sais, la façon que il y a les deux petites filles.
Mais la fille de 4 ans, ça n'a pas de bon sens.
Ben, toi, justement, t'as un enfant vraiment...
J'ai un enfant de 2 ans, mais quand elle explore la maison, mettons, t'sais, pis qu'elle, tu vois sa petite jupe, qui, t'sais, pis comme elle, qui est un peu maladroite dans ses mouvements, puis qui est un peu empotée, puis qui se promène, j'étais ému juste de voir à quel point cette petite fille-là de 4 ans, dans son motion, est comme touchante, puis c'est comme, mais mon Dieu, je regarde quasiment ma fille qui marche.
Oui, quand elle tapote... Totoro qui a une grosse ressemblance. Tu vois, la façon que le bras et la main est arqué et bouge et touche, c'est encore là, c'est tu sais, dans les animations 3D, tu sais, je me rappelle, c'est pas un film, mais j'avais vu ça pour Last of Us 2. Il y a une scène où il y a un personnage qui enlève son gilet, puis le gilet passe par-dessus la tête, puis il y avait un gars, moi je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, puis le monde il montrait ce bout-là, puis c'est comme. Le gilet clip même pas, le gilet disparaît jamais, puis ils reviennent pas. Puis je suis comme, oui, c'est vraiment incroyable, mais dans l'animation 2D, 88, t'as une personne qui touche, t'as un enfant de 4 ans qui touche de façon iconiquement réaliste, mais plus charmante à cause de l'animation, qu'elle touche un enfant, puis t'as elle, puis sa grande sœur, qui elle semble avoir comme 8-10 ans.
Elle a 8 ou un enfant dans la même, ouais.
Tu sais, qui sont. C'est la façon qu'ils courent constamment comme des enfants, que c'est vraiment le charmant d'un niveau animation, mais en même temps le mouvement réaliste de ce que c'est.
Moi, c'est ça qui m'a jeté sur le cul, tu sais. Puis après ça, tu sais, ma fille, qu'on essaye quand même d'y montrer des... Tu sais, 2 ans, c'est tôt quand même pour commencer à écouter des films, tu sais, pas tout le temps super attentive. Et là, dans Totoro, tu sais... Honnêtement, elle était scotchée, mais tout le long. Puis, à un moment donné, genre, il y a une scène où est-ce qu'il est comme, ben, tu sais, c'est une maison. Quand il court dans la maison, puis comme il court à travers les esprits, whatever, je pense qu'ils sont poursuivis par des genres de trucs de poussière, whatever. Puis, il y a des paravents un peu partout, puis il court, puis il se promène dans les paravents, ça. Elle était crampée, tu sais, elle était vraiment comme, haha, puis elle trouvait ça fucking drôle. Puis, de voir, genre, ma fille de 2 ans rire devant quelque chose tout le temps super attendrissant, mais, tu sais, ce film-là, elle a vraiment écouté, genre, au complet, là, t'sais, l'heure et demie, puis ça arrive pas souvent. T'sais, souvent, elle est comme, on va écouter autre chose, puis on y met un genre d'émission qu'elle écoute en 3D proche. T'sais, pis
Pat Patrouille.
Genre, ou Simon. Elle écoute beaucoup Simon, mais ça, c'est pas en 3D. Mais Simon, c'est nice, là. C'est un lapin, mais en tout cas. Ouais, Simon, il est smart. Mais souvent, c'est comme, on écoute genre 1 heure, puis on est comme, bah, j'aime pas ça, puis on écoute Simon. Ça, Totoro, elle écoutait au complet. Elle a eu peur, à un moment donné, la première fois qu'on a vu Totoro, justement, quand la petite fille de 4 ans est dessus, puis qu'elle tapote le ventre, puis que lui, il montre ses grosses dents, mettons. Ouais, ouais. Ça, elle a eu peur, puis elle était pas sûre. Elle s'est levée de sa chaise, elle a comme, peur, puis on a fait, non, Totoro, il est fin. Puis après ça, elle a fait, ah, qui est cool, Totoro, je l'aime bien. C'était son body.
Mais il y a un aspect aussi, tu sais, je suis pas surpris qu'un enfant, en bas âge, est capable comme de rentrer dans le film puis de pas être rebuté, parce qu'il y a un aspect aussi qui est quasiment comme, moi j'ai trouvé quasiment ben chaud, c'est d'être extrêmement relaxant, ASMR-esque, ouais. de regarder ce film là parce que c'est les 1000 shots de bois, de décors, ouais. de forêt peinturés, les plus beaux les uns que les autres, dans laquelle ces personnages-là se promènent. C'est juste vraiment calme et bienveillant. Et à un moment donné, il y a juste comme une petite pointe de drame qui devient comme... Est-ce que la grande sœur a perdu sa petite sœur, puis elle court après, puis elle...
Mais c'est quasiment comme un, le reste du temps, c'est quasiment comme un hangout movie, genre, où est-ce qu'il se passe pas trop d'affaires, puis que t'es plus comme, genre, eux autres, chill, il y a Totoro, il y a le chatobus, puis genre, toutes ces affaires-là. Mais après ça, c'est que je trouvais que ça tackle aussi, genre, des sujets quand même deep, là, tu sais, c'est leur petite fille, leur mère est à l'hôpital, tu sais, ils sont stressés, tout ça, tu sais, puis ils en parlent, là, un moment donné, genre, là, sa sœur, elle parle à sa petite sœur, puis elle dit comme... Tu sais, penses-tu que maman pourrait mourir ou des enfants de même? Puis t'es comme, t'as que tu sais, ça touche à des sujets que je ne m'attendais pas. Puis ça le fait de magnifique façon.
Ouais, ben, tu sais, aussi la vente, comment la plus jeune imite tout le temps sa grande sœur, puis sa grande sœur essaie d'être brave, puis des affaires comme ça. C'est vraiment comme bien observé comme une histoire d'enfant. Moi, je suis pas un ghibliologiste, là. J'en ai vu une couple, mais je suis vraiment intéressé par Miyazaki. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais sur le site, il y a un site qui est comme un genre de télé-Québec japonais qui s'appelle anashka.co.jp ou .jp.co, mais bref, là-dessus, il y a un documentaire qui s'appelle 10 Years with Hayao Miyazaki, puis tu sais, c'est des 4 épisodes de 50 minutes ou plus où ce que tu le suis à travers son processus de faire de différents films, puis tu apprends aussi plein d'affaires sur lui, puis tu apprends comme que sa mère a été cloué au lit toute sa vie. Fait que, tu sais, cet aspect-là du film, ça n'a fait. Comme la seule touche de Miyazaki qu'il n'y a pas vraiment dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion ou de machine volante. Quand Totoro, il embarque sur une toupie volante à un moment donné. C'est
ben, le chatobus, il vole aussi, man.
Ah oui, ben tu vois, c'est ça. Parce que lui, il trippe sur l'aviation. Fait que.
Parce que son père était designer d'avion, right?
C'est designer d'avion, oui.
Ouais, c'est dommage touchant de savoir que tout est là-dedans.
Ouais, ben, si tu regardes tous ces autres films, il y a tout le temps des machines volantes à un moment donné. D'ailleurs, le seul film de Ghibli qui n'est pas encore sur Netflix et qui va sortir en début août, que je vous recommande, c'est son dernier film qu'il a fait en 2013, qui s'appelle The Wind Rises, qui est un film sur. Le designer, le gars qui a designé ce qui s'appelle le zéro japonais, l'avion que le Japon a utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr. Puis c'est son film le plus, comme dans le fond, adulte, parce qu'il n'y a, pas de whimsy dedans. Okay. C'est vraiment sur la vie de ce gars-là. Puis dans le. Comment il travaillait pour l'empereur pour construire le best avion pour la Deuxième Guerre mondiale et comment que lui il vit avec l'idée de son rêve de créer une machine volante qui va être utilisée à des fins néfastes. C'est vraiment fucking bon. Au milieu du film, il s'en va en Suisse à un moment donné puis il parle avec un dude allemand qui dans le dub anglais et va essayer par Werner Herzog. Alors ça aussi, c'est très bon. C'est Werner Herzog qui joue un gars avec un petit gros pif, c'est vraiment écœurant. Mais c'est très touchant. Mais bref, il y a toutes ces lubies là-dedans. Mais par exemple, avec Neighbors of Toros, je trouve que c'est là qu'il y a le gros style whimsy de Miyazaki qui est vraiment installé là. C'est deux films qu'il a fait auparavant. Il a fait The Castle of Cagliostro, qui est vraiment fucking bon. Qui est.
C'est pas Hall's Castle, ça.
Non, ça c'est. Hall's Castle, c'est un petit peu après.
C'est un petit peu après, ok.
Me semble que oui. Ou...
Fait qu'il y a deux châteaux dans son histoire.
Il y a deux châteaux. Il y a Flying Castle. Ouais, Hall's Flying Castle. Puis il y a. Le Castle de Cagliostro, c'est basé sur le dessin animé Lupin. Basé sur le manga Lupin the Third, qui est comme le petit-fils d'Arsène Lupin qui vole les patentes.
C'est comme l'Artemis Fowl d'Arsène Lupin.
Ouais, c'est comme l'Artemis Fowl d'Arsène Lupin. Mm-hmm. Mais il est sur Netflix, il est pas officiellement. Il est pas considéré officiellement comme un Ghibli, mais il est vraiment fucking bon. Il y a beaucoup de scènes d'action de Brad Bird, de Mission Impossible, Ghost Protocol, qui semblent sourcées de ça.
Ah ouais.
Mais tu sais, Brad Bird fait une animation, fait que ça vient de là.
Absolument.
Puis, fait que ça, c'est vraiment le. Tu te trompes pas avec ces films-là, c'est un beau voyage à prendre. T'as bien commencé avec ça.
Mais c'est sûr, mais tu sais, mais ce qui est drôle, par exemple, c'est que. T'sais, avec ma fille, il y avait tout le temps eu cette idée romantique-là de quel allait être son premier film, mettons, tu sais. Moi, étant comme fan de cinéma...
Tu veux partager ça avec elle
aussi. Oui, je veux partager. T'sais, dans ma tête, c'est comme... Mm-hmm. C'est un beau moment que t'sais, j'ai hâte qu'elle soit plus consciente aussi de ce qu'on écoute puis qu'on puisse même échanger puis qu'elle me parle de ces affaires-là. Fait qu'il y avait tout le temps eu genre un désir de faire... Bon, tu sais, je vais choisir bien mes films pour essayer de voir, tu sais, puis au final, c'est de la bullshit, tu sais, mais t'as toute cette idée romantique-là. Puis, un moment, je suis juste arrivé une journée que ma, tu sais, moi, je travaillais, puis ma blonde avait genre eu de la misère parce que la petite était plus, tu sais, était pas du monde cette journée-là. Fait qu'elle a fait fuck off, j'y mets un film. Fait que c'est pas moi qui ai décidé quel était son premier film. Finalement, elle a juste. Joanne a juste fait fuck off, puis elle a mis B-movie parce que ça avait l'air. Ça avait l'air genre. Elle a dit, je pense qu'il n'y a pas de scène parce qu'elle va avoir peur ou rien. Fait que je suis arrivé dans le salon, Ellie écoutait B-movie, j'étais comme. Ah ouais, fait que c'est ça son premier film. En fait, ben oui, là, j'étais, j'étais plus tenable, puis j'ai mis ça, puis j'étais comme, ah, oh, mais moi, tu sais, j'avais pensé pas, le Roi et l'Oiseau, tu sais, peut-être justement, j'avais pensé à My Neighbor Totoro, j'étais, mais ouais. Vu que je l'avais pas vu, j'étais comme, je pourrais le découvrir en même temps qu'elle. Ben lui, tu fais comme, ah, oh, fuck off, là, mais ça, c'est une histoire.
Ta fille, elle va être full fan de, du miel de Ray Liotta, qui est une joke qui revient plusieurs fois dans B-Movie, que Ray Liotta a une marque de miel.
Mais non, mais tu sais, au final, ma fille se rappellera fuck all de ces films-là, dans le sens, c'est plus, j'imagine, à 3-4 ans qu'elle va commencer à avoir des souvenirs. Moi, mon premier film, c'était à 3 ans, tu sais, La Grenouille et la Baleine, je m'en souviens un peu, mais probablement que j'avais vu des films à TV avant, ouais, tu sais, ou quelque chose
mais
de
ça,
même.
C'était au cinéma ou à la maison?
Au cinéma, au cinéma.
C'est ça.
Moi, j'avais vu La Grenouille et la Baleine au cinéma, puis j'avais dormi, tu sais, genre. Mais, fait tu sais, là, après ça, en écoutant My Neighbor Totoro, puis en voyant qu'elle avait envie de l'écouter, je vais sûrement, tu sais, vu qu'ils sont sur Netflix, je vais clairement, dans les prochaines semaines, en écouter d'autres avec, puis je vais voir, moi, aller aussi écouter d'autres Ghibli, parce que, écoute, ça, ça m'a manqué, mais là, je me rattrape.
Ben, oui, là-dedans, il y a vraiment. Comme l'idée de faire quelque chose que justement qui a pas nécessairement d'intrigue puis de communion avec un environnement particulier, ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ses thèmes à lui. Tu sais, mettons dans Nausicaa, dans Nausicaa Valley of the Wind, que j'ai aussi vu récemment, qui est vraiment bon. Ça c'est vraiment plus comme sa version de quelque chose qui est action-aventure puis qui se passe dans le futur puis qui est post-apocalyptique. Puis là, c'est comme le la symbiose avec l'environnement s'est revirée contre l'humanité, mais c'est tout de même vraiment bon, vraiment intéressant. Puis c'est aussi avec le même genre aussi de personnages féminins, mais à un âge différent. On dirait qu'il y a beaucoup de ces personnages que c'est lead à Miyazaki, c'est lead féminin. Que, parce que justement, dans The Wind Rises, c'est un homme. C'est quasiment tout le temps la même fille ou le même archétype d'aventurière plucky, okay. Mais à un âge différent.
Y'avait-tu des kids, lui?
Oui, mais il n'y a pas une super belle relation avec ses enfants. En fait, y a, justement, dans le documentaire...
Cordonnier mal chaussé!
Ouais, mais il. Absolument, mais lui, il le sait, genre. Ouais. Mais lui, il le sait. Puis
il y a pas un de ses fils qui fait des films aussi, right?
Oui, qui fait des films chez Ghibli. Puis dans le documentaire, on le voit aller au visionnement du premier film de son fils.
Oh
puis,
shit!
Il part comme midpoint, puis le documentariste va le voir dehors. Puis là, il est comme. Qu'est-ce que tu me veux, tabarnak? Il veut pas répondre. Puis éventuellement, il fait juste dire. Il a fait une job honnête et sincère. T'sais, c'est ça qu'il dit du film de son fils.
C'est mal.
Ouais, ben.
Ce qui aurait pu être un moment touchant, et finalement.
Ben, en fait, c'est ça. Puis, t'sais, tu aussi, tu le vois lui travailler. T'sais. Lui, il écrit pas. Il écrit un script vraiment lousse, mais la vraie écriture est quand il. Le storyboard. Comme il storyboard le film quasiment lui-même. Et par la suite. Il passe par-dessus des animations.
Ah ouais, OK.
Fait que tu vas le voir là-dedans, puis là, tu sais, il parle de comment il a comme 72 ans, là, puis là, il est comme... Je dessine pas aussi rapidement qu'avant. Fait que là, il pogne une chemise qui est un folder qui est rempli d'une scène, puis là, il check ça. Non, pas de même. Puis là, il redessine par-dessus, puis il est comme... En tout cas, il y a une raison pourquoi ces films-là ont l'air de tout ça. Ouais, là, c'est qu'ils passent par-dessus.
Quality Control de fou qu'il fait après.
Ouais, non, c'est...
Mais en tout cas, première étoile, clairement, la petite fille de 4 ans dans le film.
Oui, la petite main, là.
Ça m'a jeté sur le cul. C'est comme...
Des enfants qui crient constamment d'une façon comme... Ouais, les enfants, ils crient de même pour de vrai, pas pour être gossants ou rien. Ils font juste comme... Ils sont heureux, puis ils crient après des affaires. J'ai trouvé ça extrêmement charmant.
Fait que sur Netflix que j'ai pogné ça, mais probablement que tout le monde qui écoute l'émission va l'avoir vu, mais gars.
Ouais, je sais pas. Ouais, moi, je l'ai pas vu.
Ben, regarde.
Maintenant que c'est sur Netflix, je suis comme, OK, faudrait que je fasse ça. mais je me suis déjà donné comme mission de checker toutes les nouvelles vagues check sur Criterion. J'étais à 1 sur 22, fait que ça va mal en estime mon affaire là.
Dépêche-toi là.
J'espère que Miyazaki va rester plus longtemps que les affaires restent sur Criterion, parce que sinon je vais être fucked.
Ouais. Ben au pire t'alternes, tu sais, c'est tu peux dire que c'est différent, ouais,
aussi,
c'est tout,
pas
il y a
plein de Mike Lee que j'ai pas vu aussi sur Criterion, fait que ouais. J'essaie d'alterner ça
là, ben
il faut. Parce que des fois, je suis comme, ah, j'ai pas le goût d'écouter un Mike Lee, je vais regarder Desperados sur Netflix. Puis là, je suis comme, je veux pas le finir, mais je. Tu sais, je finis tous les films. Puis là, je suis comme, j'aurais jamais dû faire ça.
Je pense qu'il faut que tu te fasses une charte ou un
des droits et libertés.
Une ronde, ouais. Oui, oui. Mais une ronde, genre d'émotion, genre, tu sais, comme un film inquiétant, plus un film uplifting,
ouais, ouais, ouais.
Ou quelque chose comme ça, là, une ronde
ben,
comme
je
ça.
Fais, j'essaie de faire ça quand je suis en festival, mais quand je suis à TIFF, parce qu'une fois, une année, j'ai juste vu 4 affaires super rough. Il y avait des viols dans tous les films que j'ai vus dans la même journée. Puis là, j'étais comme, OK, ça peut plus arriver. Là.
Mais aller au party après, puis ça va être le fun.
C'est ça. Moi, j'ai pas le droit d'aller au party. Je suis pas comme. Je suis pas dans. Above the line, t'as
pas dans le clic.
C'est ça.
Tu peux pas aller dans le closet de Criterion.
J'ai essayé d'aller le party de. En tout cas, je me suis fait rebrouiller.
Mongrel, tu as essayé d'aller au party Mongrel?
Je pourrais ça. Mais il y en a un à chaque jour. Mongrel House.
Ouais, le Mongrel House.
À chaque jour.
Mais ça, ça a l'air difficile à y aller. Moi, j'étais allé. Mais...
Ouais.
Dans le temps de prank.
On m'en parle même pas. Fait que,
prank.
En tout cas, mais tu sais, c'est ça. Il faut quand même. Tu sais, je crois à ça pour vrai, varier ce que tu regardes. C'est le thème de la soirée, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, même dans la même journée, où, quand tu tombes sur quelque chose, t'es que « Wow, Zulawski, c'est vraiment hot. » Faut quand même que tu les espaces. Mike Lee aussi, n'importe
non,
qui,
tu sais. 3 Zulawski dans une journée, puis tu te tues à
ah, ouais, c'est ça. Certain, tu dors super bien.
C'est
là,
sûr et
c'est...
certain. Moi, c'est... quand je disais les écouter tantôt, je laisse une journée en check, puis ça va
j'essaie,
bien aller.
J'essaie. J'écoute Desperados, où ce que Nassim Pedrat ça fait slapper dans la face par un pénis de dauphin en CGI, donc... Ça vous intéresse pas?
C'est quoi ce Desperado?
C'est une affaire de Netflix. C'est une comédie romantique de Netflix.
C'est pas la suite du film de...
De Robert Rodriguez.
Non.
Non. Non, c'est avec Nassim Pedrad et Heather Graham.
Nassim Pedrad, elle mérite mieux, là. On l'aime tous.
Mais je te dirais que quand tu vois un film de même, t'es comme, je sais pas si elle mérite mieux. Genre, je sais pas si... Si en toute connaissance de cause, elle a fait ce film... Peut-être qu'elle est exactement là où elle devrait être.
Écoute, t'es bonne dans le troisième rôle dans New Girl. Moi, je suis d'accord.
Tout le monde a besoin de manger.
Ben oui, tout le monde a besoin de manger. Regarde, on juge personne pour ça. On juge plus comme... Pourquoi qu'il est...
Je sais pas, c'est à moi. J'avais qu'à l'arrêter. Là. En fait, ouais. Je me juge moi plus que les autres. J'avais juste à l'arrêter.
Mais messieurs, c'est temps de juger le film de la semaine.
Mm-hmm. Oh!
Que nous avons tous les trois visionné.
Oui.
Qui est sur Criterion.
Oui.
C'est un film de 83?
84.
Hein? Ouais. Ça, c'est 83, mais...
Je pense que c'est 84. On va pas regarder, mais c'est The Hit de Stephen Frears.
De Stephen Frears.
Qui fait partie de la Criterion Collection, qui est pas juste un film qui est en streaming.
Non.
Sur...
avec Janus pis tout, là.
C'est ouais. Ça.
Qui met en vedette Terrence Stamp.
Absolument.
Absolument. Qui
84,
met aussi en vedette...
Octobre 84.
Barnac, est-ce qu'il est là, le gars?
Mais aussi en fait John Hurt, que j'aimerais être capable d'imiter sa voix, mais je pense que c'est juste sa voix de plus vieux qui fait ça l'imiter. John Hurt qui justement John Hurt dans The Hit avec encore avec son veston couleur crème.
Ben oui.
Billy Drago dans The Untouchables a l'air du Wario de John Hurt dans The Hit. Je me disais, quand j'ai vu ça en écoutant The Hit, je suis comme, oh Chris, ils sont comme semblables. Mais il y en a un qui est clairement plus corrompu que l'autre. Et cet autre-là est Billy Drago. Et un très jeune Tim Roth.
Très jeune Tim Roth.
Qui a l'air de Guillaume Pinault quand il s'est bleaché les cheveux plutôt cet été. C'est des référents pour tout le monde.
Ah, ben ouais.
Puis ça, c'est essentiellement, c'est un film de tueur à gages, mais c'est aussi un road movie en même temps. L'intrigue est bien simple, c'est que Terrence Stamp, que bien sûr tout le monde se rappelle de lui comme Stick dans Elektra.
évidemment.
Stick dans Elektra est un gangster qui a décidé de stouler son gang et s'est fait envoyer en relocation, en witness protection, et il s'est fait envoyer en Espagne. Et là, ça fait 10 ans qu'il vit une vie tranquille. Il est entièrement habillé en blanc.
En lin.
En lin.
Full lin.
Ouais. Il vit sa espagnol.
Spanish tuxedo, mon gars.
Ouais, lin de tête aux pieds, là, il est bien. Il a de l'air. Il y a de l'air de si t'avais demandé à un caricaturiste de faire une version plus hunky de Anthony Hopkins. Puis là, il vit sa vie, il est vraiment content, il semble être bien heureux. Et là, hors de nulle part, il se fait pogner par des malfrats. Et ces malfrats-là l'amènent à
un duo,
un tueur à gage qui est joué par John Hurt, ainsi que par son homme de main, qui est joué par Tim Roth, qui sont supposés l'amener, lui, vers le boss qui a trahi dans le temps pour se faire tuer. Puis s'ensuit un genre, c'est ça, un road movie, tu sais, un film
super
de route.
Super simple.
Il se promène, puis il s'arrête à différentes places. Et c'est comment que cette journée-là va se produire pour tous ces personnages-là qui sont impliqués dans cette histoire-là. C'est extrêmement simple.
C'est super simple. Puis moi, je trouve que c'est la beauté de ce film-là. Puis, tu sais, ça, c'est ce que j'aime personnellement, là, même quand j'écris souvent dans des trucs plus personnels. J'aime ça, moi, une histoire hyper basic, pas beaucoup de personnages, mais qu'après ça, t'installes ça, tu sais, de hit, là, dans les 20, 10, 15 premières minutes, tout est expliqué, tu sais où ce que tu t'en vas, c'est simple, et après ça, ils s'en vont aller jusqu'en France, ils vont partir, sont trois personnages, puis après ça, tu peux builder là-dessus, sur cette prémisse-là, hyper simple, mais surtout, tu peux vraiment développer tes personnages, puis avoir, puis c'est ça qui est magnifique dans ce film-là, c'est que c'est tellement simple, mais après ça, c'est que ça prend des tourneurs, puis que tes personnages se développent, puis tu sais, ils rencontrent après ça du monde, mais fait que, ouais, la beauté là-dedans, je trouve, c'est dans le minimalisme de la proposition, mais qu'après ça, ça devient...
Mais vraiment... je trouve aussi que, pour The Hit, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça, tu sais, dans un film de même, 80% du temps, ça m'en est, c'est... Puis là, tout part en couille.
Ouais.
Puis pas tout part en couille, vraiment, dans The Hit, tu sais. Ça va pas vraiment dans ce que tu t'attends, mais ça part pas en couille non plus. C'est pas une affaire où ça devient... constamment plus dramatique à toutes les 10 minutes, puis il y a des nouveaux stakes, puis tout. C'est vraiment tout le temps. Tu sais, c'est le film le plus comme existentialiste et relax de tueur à gage, tu sais, que tu peux pas imaginer, qu'ils sont juste comme dans le char, puis tu sais.
Mais puis t'as plein de pistes de « Ah oui, là, ça va chier », parce que t'as tout le temps, genre, la police en montage parallèle, un peu, qui trouve des indices de où est-ce qu'ils sont passés, puis t'es comme « Oh, mais là, ça va exploser », mais pas tant, finalement. Ils restent quand même un peu à la traîne de leur piste, puis... Tout se développe vraiment dans la vie. Ça devient une réflexion quand même le fun et assez deep sur la mort, puis sur le destin, puis sur la fatalité, puis sur accepter ce qu'on devient, puis accepter accepter le destin, accepter le fait qu'on n'a pas d'emprise sur la mort, sur notre existence, tout ça. Comme tu dis, c'est un film hyper existentialiste. Puis ça laisse toute la place à ça, puis c'est ça que je trouve fucking beau dans ce film-là.
Ben, moi, c'est la première fois que je le voyais, puis c'est ça qui m'a vraiment surpris de ce film-là, c'est que le personnage de Terrence Stamp, qui, une fois est kidnappé, c'est ça, il accepte entièrement son destin, puis je te dirais dans les 20-25 premières minutes, je suis comme, ok, là, il est-tu en train de jouer un long game qui va les...
Puis Tim Roth, à un moment donné, il dit littéralement, c'est quoi ton... Pourquoi tu fais ça?
C'est quoi ton plan?
C'est quoi ton tabarnak? Pourquoi tu fais ça? Puis genre, pour rien, il n'y a pas de raison. Genre,
il y a des mais il y a un hint de ça aussi, mais quand même, tu sais, il parle un peu de sa culpabilité, tu sais, il dit qu'il s'est senti coupable d'avoir trahi son ancienne gang, puis tu sais, il y a quelque chose de genre, quand il se fait pogner, puis qu'il décide de couper, parce que genre, il coopère tout le long avec les gens qu'il kidnappe, parce qu'il y a un respect énorme envers John Hurt, qui est un vieux routier comme lui, du crime, mettons, tu sais, puis Manny, il est comme, tu sais, tu sens qu'il est comme, ben c'était mon temps. Dans le sens que j'ai vécu ces 10 années-là, qui étaient probablement sur du temps emprunté. Mon heure est arrivée. Je vais embarquer dans ce voyage-là. Puis c'est un voyage qui est hyper serein pour la situation. Ouais. T'sais.
Ben,
c'est ça qui est weird.
Ben, je trouve que c'est ça qui permet justement que le film peut exister avec une tension sans être trop stressant non plus. Parce que tu te sens un peu sécurisé par Terrence Stamp,
ben oui,
qui est prêt à aller avec ce flow-là de « Ah, regarde, c'est ce qui est arrivé, je souris, ça me dérange pas, c'est ce qui va arriver. » Puis là, tu peux voir justement aussi, de la même façon que je pensais comme « Ah, il est en train de manigancer quelque chose. » Quand on nous présente le personnage de John Hurt, Braddock, on pense que ça va être comme OK, lui, c'est un gars qui connaît tous les angles d'une situation puis qui il peut dealer avec tout efficacement. Mm-hmm. Mais tu le vois focailler tout le temps. Et c'est,
mais lui aussi...
Ça part pas en couille, mais... Il échappe tout le temps d'affaires, puis comme ouais. Tabarnak.
Mais il est aussi, lui aussi, au bout du rouleau, un peu, puis au bout de sa vie de gangster, puis un
mais
peu
lui,
comme
lui
de l'empathie.
Aussi, il est fataliste, mais
oui, mais un peu de l'empathie façon. Pour ouais. le jeune qui est avec lui, de l'empathie pour Romani, ils prennent une passagère avec eux, puis il y a de l'empathie pour elle, parce qu'il est pas capable de, genre, de mener à terme. Tu vois que c'est comme deux vieux dudes qui arrivent à la fin de leur vie, puis sont comme tabarnak, pourquoi tout ça, tu sais, ouais. qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse ma job, mais en même temps, pourquoi ma job? Puis, ouais. lui aussi a du respect pour le gars qui vient de kidnapper. Fait que c'est toute une game vraiment relax, smooth, mais avec... C'est ça qui est brillant, c'est que t'as quand même des péripéties, t'as quand même des choses qui se passent. Tu sais, ce film-là, arrête pas, là, tu t'emmerdes pas deux crises de seconde.
Le personnage de Tim Ross, lui, qui représente, tu sais, il est jeune, puis lui, il comprend pas, tu sais. Il est tout le temps comme, pourquoi vous êtes de même, tu sais? Moi, je veux juste avoir mon 1000$. T'sais, lui, il est comme... parce que il a jamais tué personne avant. Puis John Hurt, il a dit, je vais donner 1000$ ouais. si tu viens avec moi. Puis lui, il est comme, OK, au début, il est comme, je vais voir quand je te tue, t'sais, j'aimerais pas ça. Puis quand arrive... Spoiler alert-ish, là. Quand arrive le temps, peut-être, là, il dit, ah non, je veux pas faire ça. Je veux-tu encore avoir 1000$? T'sais? Lui, il est comme... lui, il est au début de ce périple-là, tu sais. Que tu sais, dès qu'il commence à parler, qu'il va se ramasser comme John Hurt.
Ouais.
Le meilleur scénario possible pour Tim Roth, c'est qu'il est comme John Hurt, puis il parle pas, puis il est comme calice de tabarnak. C'est genre un jobber, c'est un tâcheron de tuer du monde, puis il haït ça.
Mais moi, c'est ça, c'est que ça ramène cet univers-là à un code de jobber. De genre, tu fais ta job, tu fermes ta gueule, tu as du respect pour les... ceux qui le font depuis un bout, mais c'est ton travail, puis c'est de même. Puis même, il y a Terrence Stamp qui respecte, parce que c'est comme, ben oui, vous êtes venu me chercher, c'est votre job, fait que moi, je vais coopérer, parce que je sais que c'est votre job, je l'ai déjà fait, cette job-là. Fait que t'as comme tout un code de respect, puis de sagesse dans ce trio-là, qui est vraiment comme fucking déstabilisant, puis vraiment original, puis c'est ça qui fait la beauté du film, beaucoup.
Ah, absolument. Moi, il y a une fioriture qui m'a vraiment surpris du film. Que j'étais comme, premièrement, je veux juste dire que moi, en tant qu'illustrateur, dessinateur, ça, c'est un film de face. Il y a des faces en esti dans ce film-là.
Quand tu vois les saints, les gangsters sur le banc.
Ouais, au tribunal, là,
c'est quatre gargouilles.
C'est juste une excellente face, une après l'autre. Il n'y a personne de générique là-dedans. Je pense que je pourrais les... quasiment les dessiner de mémoire, drette là encore. C'est tout des grosses faces. D'ailleurs, le procureur qui fait ça, c'est Jim Broadbent.
Jim Broadbent.
J'ai reconnu sa voix. Là,
que tu vois même pas, t'as même pas un plan, un close-up de lui. Ouais. Là.
Mais tu l'as fait. C'est un film de face. Mais après ça, c'est quand Terrence Stamp se fait amener vers la protection, soudainement, on entend We'll Meet Again, mais c'est une version comme acoustique. Puis soudainement, je pensais que c'était les mafieux qui chantaient ça. Puis je trouvais ça extrêmement épeurant.
Non, mais c'est ça, efficace. C'est exactement ça qui arrive.
Ben, parce que.
C'est eux autres qui se mettent à chanter.
Oui, c'est eux autres qui se mettent à chanter.
Mais vu qu'ils commençaient à se battre, puis la musique commençait, le chant continuait.
Mais pas dans la cour, tu veux dire, plus tard.
Non, dans la cour.
Ah non, mais c'est vraiment les mafieux.
C'est eux autres qui chantent.
C'est les mafieux qui chantent.
Ils se mettent à chanter ça quand lui, il a failli...
Ça revient après ça, un leitmotiv de lui qui reprend, parce que c'est toute sa vieille gang qui chantait genre « We'll meet again ».
Mais parce que ça continuait alors qu'il y avait comme une émeute, donc là, je pensais que c'était...
Mais c'est parce que Mané, t'as le son ambiant... Mais c'est parce que il y a beaucoup de post-synchro dans le film, il y a beaucoup de... Tu sais, le cinéma des années 80 aussi, 70 et tout ça, où est-ce qu'il y a beaucoup de post-synchro, mais ça commence, puis eux autres, mais après ça, t'entends que tout le bruit de cours est enlevé, puis t'as juste leur voix qui ont gardé au montage sonore.
Bref, ça, ce moment-là, là, j'ai trouvé ça comme... vers l'avant, vers mon écran, puis j'étais comme... J'étais épeuré, puis je trouvais ça sick.
Là, c'est ça, c'est une shot comme dans Untouchable, ça part du plafond, puis ça descend vers le juge. Puis eux autres sont en train de chanter ça, tu sais, qui est comme une toune vraiment... C'est Vera Lynn, elle vient juste de mourir, elle avait 103 ans, elle est morte, tu sais, dans le dernier mois. Tu sais, puis c'est plus connu, c'est la toune à la fin de Doctor Strange.
Ouais, c'est ça, exact.
Mais, puis Johnny Cash l'a fait sur un des derniers American Recordings. Mais ils se mettent à chanter ça, puis c'est comme terrifiant. C'est comme vraiment... Parce que c'est pas... Tu sais, le trend de genre prendre une toune pop puis la faire slow, puis c'est un trailer de film, là. Genre, tu sais, ça arrive tout le temps, tu sais, avec, je sais pas, là...
Mais Huss, là, qui ont fait « I got five on it », puis genre...
Ouais, tu sais, il y a souvent des trailers, mais... C'est, je trouve que c'est bien plus terrifiant 5 ou 4 gars chauds qui volent des banques.
Ils font comme pognés, ils sont comme des tabarnins.
C'est comme oh fuck.
Mais ça revient aussi tout le long du film. Lui, il chante, ouais, ouais. C'est quelque chose qui l'a marqué. Ouais. Pis...
Il parlait de musique d'ailleurs.
Ben oui, c'est
j'ai,
ça.
J'ai deux tidbits là. La première tidbit, c'est que Tim Roth, au début, c'était soit Joe Strummer qui joue ce rôle-là. Et parce que tu sais, Joe Strummer et The Clash avaient une grosse histoire historique en Espagne, tu sais, puis Sandinista qui a été enregistré après qu'il est en Espagne, tout ça. Puis, je sais pas si je pense à une tournée ou un album ou une affaire qui a fait que c'est pas Joe Strummer, c'est Tim Roth à la place. Deuxième chose, c'est le premier shot du film, c'est un shot qui revient plus tard, c'est John Hurt à côté d'une genre de girouette de.
Oui.
De...
Ouais, ouais.
Puis, c'est une nice. Tourne poche d'Eric Clapton.
Mais ça, poche!
Je trouve ça
nice.
Vraiment mauvais. Tu sais,
voyons, Chris!
Le premier shot, là, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment une affaire années 80 d'un doux dans le sou de blanc.
Moi, j'ai embarqué, là.
Puis, là, je suis comme, tu sais, en le réécoutant, j'étais comme, oh, j'avais oublié que c'était ça. Puis, la vraie musique dans le film, c'est Paco de Lucha, qui est un guitariste de flamenco, que je trouve ça quand même quétain, Paco de Lucha d'habitude, mais dans le film, c'est parfait. T'sais, pis à un moment donné, il y a une tune où il fait juste genre strummer super vite, faire ha, ha, ha! C'est comme, oh, ça c'est sick. Ça c'est vraiment intense. T'sais. Mais c'est
la,
ça.
Mais la musique,
moi, la
tune
avec la tune, je la trouve pourrie, mais en tout cas, c'est...
Ben, moi, ça me lance. Moi, je... Quelqu'un a un freeze frame en plus, là, genre ouais. Générique sur freeze frame, genre ralenti freeze frame avec la tune avec la tune, je suis comme, oh shit, j'embarque. Je suis là, je suis dans le film. Mais Tim Roth. Chris de bon choix. Tim Roth, au début, il y a eu vraiment... Je sais pas si vous avez vu son premier film, qui était un genre de TV movie, mais qui était Made in Britain.
Ouais, je l'ai vu, ça.
De Alan Clark, Alan Clark ouais. Qui est hallucinant, hein, qui est dans mes films préf. Mm-hmm. Alan Clark, qui a eu une... Ben, qui n'était pas si connu, mais qui a beaucoup travaillé en télé, mais qui finalement...
Ben c'est ça, mais tu sais, Stephen Frears, c'était ça aussi. Ça, c'est ça, exact. Ça, c'est son deuxième film. Son premier film, c'est en 1971.
Ouais.
Puis entre 1971 et 84,
de la télé.
C'est juste des play for Today, des affaires de la BBC.
Puis dans Made in Britain...
Ouais. Les beaux dimanches, là. Genre.
C'est ça. Ouais. Puis dans Made in Britain, Tim Roth, il joue comme un néo-nazi, comme crissement, genre, une performance de petit narf, vraiment un petit excité, tu sais, qui est un peu le même rôle qu'il fait, mais il a quand même eu un esti de début de carrière de fou, tu sais.
Justement, autres, il y a une couple de semaines, j'avais écouté Mean Time, j'ai parlé de ça au show.
Oui, oui,
Time,
c'est vrai. Ouais.
Dans lequel Tim Roth il joue aussi, puis totalement différent. Il est comme super renfermé, il parle presque pas. Puis c'est comme, c'est un esti de 2-3 ans pour Tim Roth. Tu comprends maintenant pourquoi, tu sais.
Ben oui.
Sa carrière a parti. Puis
elle a parti beaucoup avec, genre, Reservoir Dogs.
C'est
ici,
ça.
En Amérique du Nord, là, mais.
Établi, ouais.
Absolument, mais tu sais, au UK, il y a un début de carrière de fou. Uh-huh. Tu sais, dans.
Il y a encore, je trouve quand même que Tim Roth, c'est l'acteur qui a les pires accents américains ever. Il est vraiment mauvais à faire des accents américains, puis il en fait tout le temps. Puis c'est tout le temps comme, tabarnak, s'il n'a pas appris là, il va jamais apprendre. Mais je trouve quand même que c'est un aussi bon acteur. Là, tu sais, comme... Il y a un film, j'en pars sur une tangente, mais ça se passe, je pense, 500 Miles. Ça sort peut-être 4 ans.
Film basé sur la tune des Proclaimers.
Exact. Je l'avais vu au FNC, mais c'est Tim Roth qui est un gars de la DEA qui se fait kidnapper par des dudes de cartel. Tu sais, c'est un thriller de 82 minutes. De, tu sais, Tim Roth est dans le coffre la majorité du film, tout ça. C'est vraiment... Puis ça marche, ça fonctionne seulement parce que Tim Roth est dedans, tu sais.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est tellement un concept qui est basé sur sa performance puis qu'est-ce que lui va faire puis comment tu vas le prendre éventuellement, tu sais, que...
Mais il est un esti beau contrepoint dans The Hit à ces deux vieux dudes-là, tu sais, que lui, c'est la jeunesse, là, un peu l'insouciance, le manque de... Justement, le faire un peu n'importe quoi, qui tombe amoureux de la fille qui ramasse, que lui, il a de la misère à il y a de la misère à, justement à faire la part entre sa job puis ses sentiments puis juste être fucking un cold blooded killer ou un cold blooded gangster.
Quand il parle de tu sais il a sa massue puis tu sais il dit je l'ai fait à la shop à l'école là je suis comme il aurait pu peut-être que l'aiguille est à un autre bout du cadran là puis lui sa job est ailleurs mais il est créatif ailleurs là, ouais, même quand il set up ses affaires pour se battre dans le bar là je suis comme c'est trop parce qu'au début du film il y a tout de même plus une énergie de vraiment épeurant qui s'adoucit vraiment tout le long. Enfin, au début, je le trouvais épeurant, mais vraiment, il y a un bon fond. Il faut juste que, tu sais, clairement de la façon aussi qu'il parle souvent à Braddock, il avait peut-être juste besoin d'une genre de figure paternelle. Là, il est avec ces deux figures paternelles-là qui montent deux chemins. Au début du film, j'aurais pas pensé que je serais intéressé au dessin de ce personnage-là parce qu'il était heel en masse.
Mm-hmm. Mais c'est ça, tout à son honneur de donner genre de la dimension à ce personnage-là qui peut être juste la petite tête brûlée. Mais tu sais, puis au final aussi, qui est scénarisé, tu sais, le film, c'est. En fait, c'est drôle parce que c'est Peter Prince qui est Pierre Prince.
Ouais.
qui est littéralement Pierre Prince. mais qui a fait fuck all, genre, qui a fait genre de la télé aussi. Puis genre.
On dirait un sobriquet, par exemple. On dirait que c'était un nom pour un autre writer.
Peter Prince. Mais tu sais, je trouve que c'est un film dans son minimalisme, tu sais. Puis dans ses personnages qu'il établit, je trouve que c'est fucking efficace. Après ça, t'as Stephen Frears qui est bon pour prendre des scripts qui sont peut-être pas top puis finalement leur donner. Tu sais, dans le sens qu'il, visuellement, il tire profit aussi. C'est stylish en esti comme film. Puis genre, il tire profit.
Le ciel écrasant tout le long. Là,
L'Espagne, il l'utilise là, dans le sens que.
Aussi, sans être un peu dans la stylish de vidéo. De... type vidéo puis tu sais des années 80 où ce que tu sais des fois tu regardes tu sais comme The Hunger de Tony Scott c'est stylish mais là tu regardes ça maintenant tu fais ben tu sais ça l'a quand même assez mal vieilli même si chaque frame est une peinture c'est aussi comme une peinture quétaine tu sais de
mais là stylish des fois même juste dans ses choix de setup tu sais comme prendre une scène où est-ce qu'il arrête puis là sont finalement à côté d'une hostie de chute qui fait comme une espèce de fog alentour de tu sais il est comme dans ses setups tu sais il y a quelque chose de visuellement tout le temps puis où est-ce qu'il pose sa caméra tu sais puis moi c'est ça que je trouve tu sais en tant que scénariste j'aime beaucoup ces réals là qui travaillent tout le temps avec des scénaristes puis qui sont très polyvalents tu sais moi je pense à Stephen Frears puis je pense aussi à Mike Nichols je pense à genre ben même Louis Malle ou ben tu sais pour moi c'est tout le temps des réals qui ont fait un film, tu check l'autre après, pis t'es comme, ouais, c'est, tu sais, High Fidelity, pour vrai, tu sais, tu check High Fidelity, tu check Philomena, whatever, pis tu check, genre, Tamara Drewy, pis t'es comme, plein d'affaires, que t'es comme, mais je trouve qu'il y a quand même une constante là-dedans.
Cowboy Way.
Pis tu sais, pis il y a un peu dans notre industrie, pis il y a quelque chose de genre, tu peux prendre un scénario, mais tu sais, t'as peur que t'aies pas ta touche personnelle là-dedans, pis que les auteurs se perdent dans un scénario, mais je trouve que Stephen Frears, peu importe, le scénario qu'il va prendre, tu sais, j'écoute un film, je trouve que il y a tout le temps son côté justement philosophique un peu, tout le temps son côté puis même dans sa caméra tout ça, puis j'étais un peu comme j'aime moi ces réals là qui touchent à n'importe quoi, puis tu sais oui, j'ai du respect pour un dude comme Wes Anderson, mais personnellement, je suis comme c'est un peu la même affaire, c'est un peu comme mais Stephen Frears, tu sais, est différent dans toutes ses hosties d'approche, puis moi j'aime crissement beaucoup ces réals là.
Wes Anderson, d'ailleurs, qui met ce film-là au cinquième rang de ses films préférés britanniques.
UK, oui, c'est vrai.
Ouais, ben, d'ailleurs, moi, je suis sur le point d'écouter la mini-série britannique qui s'appelle Very English Scandal que Stephen Frears a réalisé.
Avec
Hugh Grant. et Ben Whishaw, fait que Réunion de Paddington 2. Qui est basé sur une histoire vraie, puis qui est scripté par Russell T. Davis, qui est un de mes writers de télévision britannique préféré. J'ai bien, bien hâte. Il était comme vraiment pas cher sur iTunes récemment. Je me l'ai pogné, puis j'ai hâte de l'écouter.
C'est récent, ça ou...
C'est sorti en 2017 ou en 2018, mais il était récemment pas cher sur iTunes. C'est une mini-série, c'est comme genre 3 épisodes de 60 ou 90 minutes. Puis ça parle de l'histoire vraie d'un officiel du gouvernement qui avait une relation secrète avec un jeune palefrenier, un gars des années 70, puis qu'il a essayé de le faire assassiner pour couvrir le tout. Puis je me rappelle parce que j'avais commencé à lire le script pour commencer. J'ai comme, je l'ai pas encore acheté, mais le script était en ligne, mais j'ai commencé à lire le script parce que j'aime le writer. Puis là, je voyais exactement comment Hugh Grant allait livrer ces lignes-là de façon huileuse. Fait que là, j'ai comme, OK, m'a l'acheter, mais que ça n'est pas cher, puis m'a le pogné bientôt.
J'aime ça.
Alors bref, je pense qu'on recommande tous The Hit, qui est disponible sur Criterion Channel en ce moment, mais si vous... si ça adonne que vous pouvez le voir d'une autre façon ou que vous voyez sur iTunes, des affaires comme ça.
Mais en fait, Criterion va le sortir. Ils font une réédition Blu-ray.
Ouais,
en fait.
Le Blu-ray sort.
Il était dans leur collection DVD, mais là, ils ont annoncé pour octobre.
C'est ça, ouais.
Pour octobre, ils ont annoncé dans leur collection qu'ils allaient refaire un Blu-ray de Hit. Fait que moi, je vais clairement l'acheter.
Excellent.
Même si je l'ai vu. Ça, mais là, je l'ai vu deux fois.
Exact. Fait que là, on va terminer ce bel épisode là-dessus.
Yes.
Alors, Eric, les gens, mettons qu'ils veulent voir ce que tu vas faire à l'avenir, que peut-être ça va prendre un petit bout.
Ça va prendre un bon bout avec la pandémie. Bon bout. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, même là, on a des sous pour tourner des choses, mais on sait même pas quand on va les tourner. Tu sais, dans le sens que. Là, j'ai eu du financement pour un court-métrage fait que je vais réaliser, que j'avais pas... Ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Fait que là, je vais réaliser et écrire, mais... Moi, c'est un film sur un couple qui essaie d'avoir un enfant, puis on les suit à travers leur tentative d'avoir un enfant. Fait qu'ils sont souvent à poil, en train de baiser, en train d'essayer d'avoir un enfant, parce que c'est de même que t'essayes d'avoir un enfant.
Mm-hmm.
Fait qu'avec la pandémie, un couple qui s'embrasse, ben, l'UDA, elle veut pas. Fait que là, c'est comme... Ben, on attend. C'est
des
comme,
mormons, là, il y a... Ou des,
ouais, il faudrait un drap entre les
deux.
Mais
là, pour l'instant, on est en train de faire comme, on va essayer de trouver un vrai couple, mais tu sais, ça se trouve difficilement, parce qu'en plus, moi, c'était un couple mixed race, fait que là, c'était comme, ben, des affaires compliquées. Fait que écoute, si les gens veulent voir des affaires que... Faut qu'ils soient patients, je pense.
Mais non, les affaires...
en même temps que Tenet.
En même temps que Tenet, ouais. Les affaires que tu as dans le passé, que ce soit Menteur, que ce soit Les Barreurs de Malbé,
Avant qu'on explose.
Prank, Avant qu'on explose.
Tout ça, c'est sur iTunes.
Ouais.
Tout ça sur iTunes, si vous cherchez, tout se trouve là. Sinon, il y a comme un nouvel application, il y a un nouveau site aussi, Aime ton cinéma. Non, c'est quoi, Cinéma québécois? Là,
ouais, Aime ton cinéma.
Aime ton cinéma.
C'est-tu un site de streaming, ça?
C'est non,
pas,
mais
pas
ils disent...
Qu'ils disent où aller
ils
chercher.
Disent où aller chercher. Ouais, enfin, ouais, en tout cas, ouais. Si tu te poses la question, tu peux... Mais en même temps, je suis sur le site, puis des fois, c'est pas tout le temps simple, mais s'ils cherchent, ils peuvent trouver. Puis sinon, prenez votre mal en patience. La vie n'est pas facile.
Ouais, ouais, on veut tous s'en sortir à un moment donné. Et sinon, si les gens veulent voir aussi les films qu'on regarde sur Letterboxd,
oui.
Les gens ils trouvent où sur Letterboxd?
Moi, c'est Eric Kaboulian. Ben, je me suis pas caché. Puis des fois, je donne des opinions un peu méchantes sur mon cinéma québécois. Mais écoute,
moins que ton ami Nicolas Krief.
Nicolas
Krief, déjà mentionné c'est un podcast. Hein.
Il va peut-être aller déliter une couple de ses critiques vu que vous en parlez.
Lui,
là, mais...
il gêne pas ben, je te dirais.
Non, moi, je me gêne moins. Je me gêne un peu plus que ça. Mais je trouve que c'est sain dans le milieu quand même de dire un peu notre vraie appréciation. Mais souvent, anyway, sur Letterboxd, j'essaie juste de faire des gags sur ce que j'ai vu. Mais fait que oui.
Absolument.
Moi, c'est Why Does It Exist sur Letterboxd. Je vais aussi dire, Danny Lennon de Prends Encore m'a demandé de choisir des courts-métrages. Puis ça va pour le truc de pandémie qu'il fait. Là. Ça s'appelle.
Dans ta face.
Dans ta face, ouais. Puis là, je vais pas rien révéler. Je pense que c'est samedi le 25 que les miens vont passer. Mais un des courts-métrages met en vedette Eric Kaboulian.
Pour vrai?
Et je ne te connaissais pas quand je l'ai vu. Là. Je l'ai mis pour une raison autre qu'entièrement que le fait que je te connais. Mais. C'est une chose qui va se passer.
C'était quoi?
Ben, je vais pas
off mic!
Je vais pas faire le spoiler à l'épisode, franchement. Mais c'est ça. Puis après ça, c'est ça. CultMontreal.com pour les reviews. Il n'y a pas beaucoup d'affaires qui sortent au cinéma en ce moment. Tout est sorti de la même semaine, et après ça, ça a l'air on attend. Mais c'est ça.
Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram ainsi que sur Letterboxd où il y a mes opinions de films que je regarde. Vous pouvez voir comment que je saute d'un genre à l'autre constamment selon mes règles bizarres.
Mais je dois dire qu'on a repris du poids de la bête parce que là, on parlait de ça la semaine passée. Notre Letterboxd faisait dire que c'était tous des films de merde, genre. Ouais. Rien plus que 5 sur 10. Puis on était comme, il faut se forcer un peu.
Ouais, là. Oui, c'est ça parce que ça arrive à force de variété. C'est pas tout le temps du bon qu'on tombe dedans, mais là. Neighbor Totoro,
Moi, j'ai eu une passe dans Creuse, mais les derniers films que j'ai regardés sur Letterboxd, ça va bien quand même, les dernières fois.
Fait que, c'est ça. Fait que aussi. Si vous écoutez ça, vous êtes potentiellement des fans de Trois-Bières ou juste de Trois-Bières en général. Et quand vous allez entendre ça, si vous êtes un gamer ou une gamer qui vous jouez à des jeux vidéo, Panzer Paladin, le jeu sur lequel j'ai travaillé dessus, que j'ai scénarisé et que j'ai même storyboardé des scènes, est disponible sur Nintendo Switch et sur Steam. Alors, c'est disponible à partir du 21 juillet sur les stores électroniques. Alors, allez voir ça, allez acheter ça. Ça encourage, bien sûr, une belle compagnie d'ici, mais aussi, c'est la compagnie qui héberge électroniquement Trois-Bières à chaque semaine. Alors, ça aide Trois-Bières aussi si vous allez acheter un... c'est le plus proche dans ma vie que je vais pouvoir scénariser et storyboarder.
Je savais pas que t'avais scénarisé aussi le jeu. C'est très cool.
De l'animation de robots géants. Ça risque d'être ma seule chance dans ma vie de faire ça, du moins à date, et c'était vraiment le fun de le faire. Alors, allez voir ça au panzerparadine.com. Mais en attendant, allez voir des vues!
Yeah!